bienvenue au Voyeur de vue, un podcast où on visionne des vues devant l'éternel. Et un de ces voyeurs de vue-là est bien sûr moi-même, Yannick Belzile.
Et l'autre, c'est moi, Alex Rose.
Alex, t'es-tu prêt pour la manie?
Non, clairement, visiblement.
Mais si je te
non.
demande, t'es-tu prêt, par exemple, pour Hôtel Transylvania 4, Transformania?
Ah oui, ça, je suis prêt, par contre.
T'es prêt en motadine étant un Sandman, un Sandboy?
J'ai vu aucun des Hôtels Transylvania, peut-être je devrais m'y mettre.
Sont meilleurs que tu penses, surtout pour les animations. Ils sont vraiment cool. Faites par Jendy Tatasovski. Mais bref, ça a été sorti cette semaine qu'ils vont aller straight sur Prime au lieu d'aller en salle. Ouais. Et ce qui augure peut-être mal pour les cinémas de par l'automne, mais ouais. C'est peut-être avec les passeports puis plus de vaccins.
Ben, ici, monde. Peut-être ça va être correct. C'est plus aux States que c'est en train de rechier parce qu'il y a trop d'imbéciles.
Mm-hmm.
Ben, tu sais, ici, c'est sûr, ça va moins bien que ça y allait, mais tu sais, c'est moins inquiétant que, mettons, aux States, qu'il y a 88 000 personnes hospitalisées avec la COVID en ce moment.
Ouais, tu sais.
Ça, c'est gros comme, tu sais, Alma, genre. C'est comme si tout Alma était...
Dans un hôpital.
Dans un hôpital.
Tabarnak, ça va pas bien, ça.
C'est plus, je pense qu'Alma, c'est moins que ça, en plus. En tout cas, ouais.
Tu sais, je suis... De par un de mes contrats, je travaille sur un jeu de Tortue Ninja et par conséquent, je suis aussi sur le Discord de la compagnie qui fait comme un channel spécial pour Tortue Ninja. Puis je suis comme je vais parler aux fans. Puis dans beaucoup du monde, il y a du monde de partout dans le monde, mais il y a beaucoup de monde aux États-Unis. Puis je vois du monde parler comme ouais, c'est en Ohio, tout le monde s'en crisse. C'est que ça me fait chier. Ouais, ouais. Je vois beaucoup d'écho comme ça, de, un peu de. Dans les chatrooms de parler des États-Unis, puis c'est comme la 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 la.
Ouais.
Fait que, bref, c'est ça. En attendant, on va parler de vues. On a des vues devant nous, alors on va en jaser cette semaine. Puis peut-être qu'on verra Transformania en salle. Oui, c'est ça, Jenny Tartakovsky qui fait ces dessins animés-là. Tu sais, il essaye vraiment d'amener des principes d'animation 2D au truc en 3D. Puis ça, je trouve ça vraiment cool. Puis c'est aussi le fun de voir des films d'animation nord-américains qui essaye d'être des cartoons funnés versus, tu sais, c'est cool, Pixar, mais un moment donné, te faire réaliser la vie puis te faire pleurer.
Ouais.
C'est cool que des cartoons font ça, mais c'est le fun aussi de voir comme que David Spade est comme un loup-garou qui peut être rectangulaire des fois.
Ben, tu sais, c'est un peu ça, dans le fond, le problème du cinéma mainstream américain en ce moment. C'est que quand une affaire pogne, tout devient ça. T'sais, ça a longtemps été ça, là, je veux dire. Mais là, il y a moins en moins de place. T'sais, mettons, on peut regarder dans les années 70 les films de désastre. T'sais, c'était huge. Mais il y avait encore le Parrain 2 la même année que Earthquake. Je veux dire, il n'y avait pas juste comme des affaires comme Earthquake. Puis c'est ça l'affaire. C'est Pixar, t'sais, quand Pixar est sorti, tout le monde était comme oh, c'est fucking sick, c'est pas juste pour les enfants. Non, non. Là, maintenant, on est genre, pourrais-tu avoir des cartoons juste pour les enfants qui sont pas un esti d'affaires animé en Roumanie avec la voix de Rob Schneider, tu sais, ou genre la patte patrouille, tu sais, ce genre de shit-là. Fait que je comprends. Le film de la patte patrouille qui s'en vient, là, bien.
Oui, ben, qui, j'imagine, ça doit être. Je l'ai pas vraiment écouté, j'ai vu des bouts, mais j'imagine que. Je sais pas si les enfants vont faire comme. Il me semble qu'elle est trop nice, cette version-là de la patte patrouille. Il me semble que la caméra bouge. Je suis pas prêt à ça. Ils sont pas supposés. Je suis pas supposé pour voir tous les poils de la patte patrouille de même.
Je sais pas, tu sais, comme j'ai mon neveu qui a 4 ans. Lui, il aime ça, la patte patrouille, mais il est jamais allé au cinéma, tu sais. Fait puis il a vu peut-être, tu sais, mon frère expliquait qu'il est encore petit, puis il a de la misère avec le concept des enjeux dramatiques. Fait que tu sais, comme il essayait de regarder Finding Nemo, puis là il capotait parce que tu sais, au début Nemo se fait séparer de sa famille.
Ouais.
Puis il comprend pas le fait que tu sais, le film c'est ça, genre. Tu sais, lui il est comme non, fuck that shit. Tu sais, il est trop petit pour comprendre les enjeux dramatiques. Fait que peut-être qu'il y a les pattes patrouilles, en plus, tu sais, parce que si tu regardes la patte patrouille à TV, c'est comme c'est fucking niaiseux, là. Il y a quelque chose est pogné dans l'arbre, on va le dépogner, tu sais. Mais là, sur une heure et demie, ça doit être plus complexe. Fait que peut-être qu'il va capoter.
Comme, ah non, des chats veulent défonder la patte patrouille. Comment qu'on va régler ça? Ben, regarde, parlant de dessins animés potentiellement déstabilisants, je vais y aller avec un de mes visionnements de la semaine. En fait, mon visionnement, mon gros. J'ai eu un gros week-end de cinéma. Entre Annette, dont on va parler plus tard.
Oui.
J'ai sandwiché Annette entre les quatre films de Evangelion Rebuild. Pour expliquer un peu, l'affaire de, pour parler de ces films-là, c'est tout de même un peu important, ou du moins, moi, je trouve ça intéressant de les mettre en contexte avec comme, comment ils existent et les circonstances particulières qui ont mené à l'existence de ces films-là.
Premièrement, qu'est-ce que c'est Neon Genesis Evangelion?
Qu'est-ce que c'est Neon Genesis Evangelion? Eh bien, c'est en japonais, c'est l'évangile d'un nouveau siècle, mm-hmm. Que ça voulait dire. Mais ça a commencé, c'est une série animée qui a 26 épisodes. Qui a sorti de 1995 à 1996, créé et réalisé, chapeauté par un ancien animateur de Studio Ghibli, qui est maintenant réalisateur, qui s'appelle Hideaki Anno. Hideaki Anno est aussi le scénariste et le réalisateur de Shin Godzilla, qu'on a vu il y a plus d'un an, au voyeur de vue, on avait bien aimé. C'est ça, lui, il est comme un des disciples d'Hayao Miyazaki qui a fondé son propre studio et puis qui continue à être vraiment créatif puis à faire des frasques dans le milieu d'animation. Il a créé Evangelion comme de la façon que la télévision d'animation japonaise fonctionne, c'est que les dessins animés sont comme financés un peu par la station de télé qui les fait passer, mais aussi par les compagnies qui vont vendre le soundtrack, qui vont faire les bebelles, qui vont faire les jeux vidéo, qui vont faire telle affaire. Mm-hmm. Fait que c'est une proposition vraiment mercantile quelque part de faire ces shows-là, mais c'est tellement compris, puis ce genre d'animation-là est tellement vu un peu comme une industrie de service que ça en fait pas de cas.
Ben, tu sais, moi, je te dirais une chose que j'ai remarqué, moi, dans mon approche à regarder la musique japonaise, là, c'est qu'il y a eu un gros shift au milieu des années 80 où il y a des musiciens qui faisaient peut-être de la musique qui pognait plus tant que ça ou qui voulaient pas se plier à, tu sais, aux demandes du marché. Se changeaient puis devenaient des chanteurs d'animé. Il y a du monde, des musiciens qui sont littéralement, genre, t'sais, si tu vas sur Discogs, ces gens-là, voilà, anime singer. Puis c'est du monde qui existe pour chanter des chansons thèmes d'animé. Puis c'est comme ça leur carrière, ils font même plus de musique à part de ça.
Ben,
parce que tu deviens genre, un genre de. C'est comme un studio musician, genre, mais de chanter des tunes d'animé.
Ben oui, c'est une affaire qui est vraiment particulière aussi que, mettons que tu regardes aussi, mettons, dans le cas de la Transformers d'Evangelion, de la série originale, c'est des dessins animés qui ont comme beaucoup de genres à l'intérieur, tu sais, qu'il y a de l'action-aventure, il y a du sitcom funné, il y a de l'émotion. Fait que j'imagine que pour des musiciens comme ça, tu fais comme 10 affaires si tu fais un soundtrack d'animé. Fait que j'imagine que c'est peut-être vraiment intéressant pour quelqu'un qui veut se stretcher d'en faire comme ça.
La majorité des musiciens de jazz éventuellement ont fait de la musique d'animé, là, qui ont ça sur dans leur discographie, là, c'est quasiment automatique. Là.
Ouais, puis tu sais, j'imagine que vu la culture de fans qu'il y a autour de ces affaires-là, ça peut être une affaire qui vit peut-être pour toujours si t'en fais un bon. Là. Fait que bref, dans ce contexte-là, vraiment, vraiment mercantile, Hideaki Anno, il crée Neon Genesis Evangelion, qui est l'histoire de Shinji, qui est un jeune de 15 ans. Ça se passe en 2015, et c'est 15 ans après. Ce qui s'appelle un cataclysme qui s'appelle le Second Impact. Le premier impact était le météore qui a tué les dinosaures. Mm-hmm. Le deuxième impact est ce qui est arrivé en l'an 2000 dans Evangelion et qui a tué la moitié de la population. La planète a fait monter les océans, fait fondre le pôle sud.
La sortie du film Dinosaur.
Dinosaur. Oui, oui, ouais, c'est. Le monde a dit non à ça. Puis là, tout a fondu. Ça a mal été, là.
Et mon pool de films qui est sorti en l'an 2000, Dinosaur. Ça va bien?
Ouais, ça va bien en motadine.
Grosse journée.
Et puis, vu que là, on rentre dans des codes de séries animées japonaises puis de traditions d'animées japonaises, il a été abandonné par son père il y a quelques années, mais là, il est rappelé par son père qui travaille pour une organisation secrète qui s'appelle Nerve et il l'appelle pour un but. Son père, la première fois qu'il le rappelle depuis des années, c'est comme. J'ai besoin de toi parce que l'humanité se fait attaquer par des créatures pratiquement indestructibles qui s'appellent des Angels. Et puis, la seule façon qu'on peut se battre contre eux autres, c'est avec un genre de méca qui est un robot géant qui s'appelle, qu'on a construit, qui s'appelle un Evangelion. Et non seulement, des enfants de 15 ans sont capables d'interfacer avec ces robots-là pour les faire fonctionner, mais toi, c'est toi qui es capable de piloter ce Evangelion-là. Fait que c'est... Puis l'affaire aussi, c'est que Shinji n'est pas un protagoniste traditionnel de shoujo japonais. Comme lui, il ne veut pas rentrer dans le robot, puis il ne veut pas aller à l'aventure. Mais il fait pareil anyways et devient comme le pilote principal des Evas, de ces robots-là. Et à travers ça, à chaque semaine, il va se battre contre un monstre différent. Il va apprendre à se tisser des liens puis à sortir de sa carapace parce que ça, il a comme sa capitaine militaire devient comme sa genre de mère qui s'occupe de elle, même si elle est super focale, tout le temps en train de boire de la bière. Il se fait des amis à l'école, mais il y a de la misère. Puis aussi, il devient étrangement attiré à une mystérieuse jeune femme qui s'appelle Ray, qui est une autre pilote d'Evangelion. Et de par ça, il y a... on découvre qu'il y a des mystères face à la véritable création des Evas, mais aussi, qu'est-ce qui est arrivé au Second Impact, puis c'est quoi le futur de l'humanité. Il y a des conspirations, il y a des beaucoup de des enfants et des adolescents qui entrevoient c'est quoi le monde adulte, puis peuvent-ils comprendre ces adultes-là. Puis ça, encore là, tu sais, je raconte ça, ça a l'air tout de même un peu générique, même que tu penserais que ça ressemblerait beaucoup à Pacific Rim, mais Pacific Rim ressemble, a beaucoup été cherché, mettons, ils ont vu le panier d'Evangelion, ils ont dit, on prend une poignée d'affaires là-dedans. Mais l'affaire, c'est que avec cette prémisse-là, tout de même générique plus un, puis dans ce milieu-là, vraiment mercantile, Hideaki Anno, il a créé quelque chose qui est devenu emblématoire dans la culture japonaise. Les cartoons de mecha, c'était sur sa fin, puis lui, il a ravivé ça avec le design, avec la façon qu'il a décidé de raconter ces histoires-là, avec les personnages que tout le monde s'est mis à capoter dessus. La musique, tu sais, il y a des morceaux de la musique d'Evangelion qui a été joué au début des derniers Olympiques au Japon. Ça l'a vraiment comme, en dedans de 26 épisodes, ça l'a capturé le mainstream, les nerds, puis il y a encore, c'est encore un bonanza de merchandising. Tu peux acheter des sièges de toilette d'Evangelion, je t'engage. Tu peux acheter tout d'Evangelion. Fait que, puis... mais ce qui est intéressant là-dedans, aussi, moi, ce qui une affaire que, tu sais, toutes les affaires de conspiration de robots puis de personnages, c'est, je trouve ça vraiment intéressant, puis ça me fait capoter. Mais aussi, Hideaki Anno était une personne qui était extrêmement dépressive et occasionnellement avait de l'idéation de mettre terme à ses jours. Puis ça, il a mis ça dans sa série. Et puis, ça veut dire que, tu sais, les 16 premiers épisodes d'Evangelion, t'es comme, oh shit, ça, c'est des ados qui se battent contre des créatures, tu peux faire 16 saisons de ça. Mais lui a commencé à mettre ses émotions dedans. Fait qu'il a commencé à artistiquement mettre la hache dans la patente et à faire des affaires comme de montrer des personnages que t'aimes se faire brutalement assassiner. Et puis, en plus, tu sais, vers la fin, à cette époque-là, à Tokyo, il y avait eu une attaque dans une station de métro.
Dans le métro, une secte.
D'une secte, oui.
En 95.
En 95, qui avait attaqué avec du gaz sarin, puis tout ça. Et puis ça, c'est une affaire qui allait mettre vers la fin d'Evangelion. Puis il dit, on peut plus mettre ça. Fait que les derniers épisodes d'Evangelion sont quasiment, ou sont à, je dirais, 75% extrêmement abstraits. Il n'y a plus de bataille de robots. Tout se passe dans la tête de Shinji et devient, pour bien des jeunes, puis beaucoup de fans d'animation, c'est la première fois qu'ils ont fait face à de l'art plus abstrait et exigeant. Puis il y a du monde qui ont adoré ça puis qui ont capoté. Puis qu'il y a du monde qui ont fait comme, non, c'est quoi ça? Ça devrait pas finir comme ça. Sont où mes explosions et où mon action?
J'ai vu ça sur Twitter, d'ailleurs, des gens qui faisaient... Il y avait un documentaire avec le réalisateur qui était comme essentiellement, le monde a tellement haï ça qu'il m'envoyait genre des menaces de mort, puis j'étais comme moi, hein, moi aussi je voudrais mourir. Puis là, quelqu'un il dit, pourquoi tu sais, qu'est-ce qu'il a fait, tu t'es pas suicidé? Il dit, je pensais que ça allait faire mal.
Ouais.
C'est vraiment élevé, ça, tabarnak. C'est genre, là, j'étais comme ça, c'est un, on parle d'un dessin animé, là, ce dude-là, là, qui est genre, qui est filmé comme assis à une longue table, genre, puis ça avait vraiment l'air, là, genre, extrêmement élevé.
Ouais, ouais, fait qu'il y a eu ça. Par conséquent, le show était tellement un gros succès qu'en 97, il s'est fait donner comme, il s'est fait donner de l'argent, genre, regarde, si tu fais un film d'Evangelion, puis tu fais comme refaire la fin,
mm-hmm.
Ou une... tu rajoutes à la fin, avec plein de budget, là, on va te donner un film. Fait que là, il a fait ça. Puis le film qui s'appelle End of Evangelion, la série et ce film-là sont disponibles sur Netflix. Et vraiment comme visuellement incroyable, explosive. Puis fini encore plus rough que la série de façon exigeante. Puis dans le film, il y a des bouts où il a scanné des lettres de mort qui s'adressaient à lui puis ils apparaissent à l'écran.
Aïe, aïe, aïe.
Fait que, tu sais, il a mis ça là-dedans puis il a mis son âme là-dedans.
Ouais.
Puis beaucoup de monde sont comme... Vous comprenez pas sa fin puis c'est un artiste puis allez chier. Mais en même temps, ça l'a comme créé une soif éternelle de... Ah, j'espère qu'il va faire d'autres Evangelion à un moment donné parce que s'il fait d'autres Evangelion... on va soit avoir de la shit vraiment coco-banane,
ouais.
Ou pour les beaucoup de monde, sont comme, oh, on va avoir plus de réponses puis de d'affaires sur le lore. Puis là, lui, depuis, après ça, il a continué à essayer. Je sais que c'est long, mon affaire, là, mais je...
Ben non, mais vas-y.
là, ce que lui...
On n'a pas de limite de temps. Ouais, de
c'est
ça
vrai.
Ça peut durer 7 heures.
C'est pour ça qu'on est un des meilleurs podcasts de cinéma au Québec.
C'est le meilleur podcast.
Le meilleur podcast de cinéma au Québec. Ah, parce qu'en plus, il cite, là, pas juste des vues, il y a du contexte. Hideaki Anno, il réalise une couple de films, puis il essaie de créer d'autres trucs animés.
Mm-hmm.
Puis là, il réalise... J'ai mis toutes les affaires que j'aimais vraiment, puis tous les thèmes qui m'intéressaient dans Evangelion. Fait que je suis pas capable de créer d'autres choses qui n'est pas Evangelion. Fait que il part son propre studio. Ils ont la franchise, ils ont comme les clés de la franchise. Fait qu'ils sont comme, ben, on va faire full d'argent, puis ça me tente d'en refaire. Alors, ce que je vais faire quelque chose qui s'appelle un rebuild de Evangelion. C'est que je vais re-raconter l'histoire, mais avec des affaires différentes.
Tu vois, qui est une affaire que, justement, comme on parlait la semaine passée avec Suicide Squad, genre,
mm-hmm.
qui devrait y en avoir plus de ça. Il devrait y avoir des rebuilds et non pas des reboots ou des remakes.
Mm-hmm.
Mais bien, bon, OK, on sait c'est quoi la base, on va le refaire. Un cover, genre.
Mm-hmm.
Tu sais.
Fait que là, il fait le premier film qu'il fait, qui sort en 2007... Il a sorti un announcement comme, regarde, on va rebuilder Evangelion, ça va être 4 films, puis je te dirais que les 3 premiers films vont être assez proches de ce qu'était la série télé, mm-hmm. et le dernier film va être une nouvelle fin totalement différente. Fait que là, il dit ça, il sort le premier film, et puis c'est un genre de tu sais, dans Shin Godzilla, ça gonne pareil, hein? Mm-hmm. Tu vas vite à travers mm-hmm. les événements, puis tu vois des bribes de personnages, puis le film se fie à ce que tu fasses le pont entre la dernière fois que tu les vois.
Ouais, ouais, ouais.
Fait que ça traite les 6 premiers épisodes de la série un peu de cette façon-là. Fait que c'est cool, mais en même temps, je suis comme, si t'écoutes ça en premier, je suis comme, tu vas être pétaradé de d'images et de concepts, puis tu vas peut-être avoir de la misère à te retrouver, mais en tout cas... Fait que là, il fait ça, puis c'est plus ou moins la même chose avec certains détails différents que moi qui connais bien la série. Je suis comme, ah, je trouve ça intéressant que je change ça. Là, après, c'est cool. Une couple d'années plus tard, sort le deuxième. Mais là, dans le deuxième, il diverge totalement de ce qui s'est passé dans la série. Tu sais, il y a des monstres qui sont redesignés, mais il diverge totalement avec une fin aussi super différente, avec un gros cliffhanger, puis t'es comme, il ne suit plus la série du tout.
Ouais.
Puis là, dans le troisième film, c'est un tout nouveau statu quo qui n'a pas rapport avec rien,
mm-hmm.
ou qui a rapport avec des affaires. Puis là, moi, je suis comme, ben voyons donc, tabarnak, il a tout sacré. Il a comme tout sacré à terre, puis là, il a mis des nouvelles affaires sur la table. Puis là, je suis comme, respect, tabarnak. Il a dit qu'il allait refaire la série, mais là, finalement, il a tout crissé à terre, puis il a refait autre chose. C'est fucking cool. Et tout ça amène au quatrième film, qui devient justement la fin de cette saga-là. Et puis, qui est dans le fond de ce dont je veux parler, parce que le film, il est sorti au Japon, genre en mars dernier, mm-hmm. et il est sorti en Amérique du Nord et partout dans le monde, le week-end dernier, sur mm-hmm. Amazon Prime, pour un truc tout de même à gros déploiement. D'ailleurs, c'est comme si c'est un gros move de Prime contre Netflix, parce que c'était un gros deal quand Netflix avait acheté les droits de la série pour l'avoir sur le service, puis que Prime ait les films, c'est tout de même surprenant.
Mm-hmm.
Fait que là, ils ont sorti le dernier film. Fait que essentiellement, ce qu'il a fait avec ce film-là, c'est lui dit, ça s'appelle The End of Evangelion. Le film s'appelle, le premier film s'appelle Evangelion 1.11. Le deuxième s'appelle Evangelion 2.22 You Cannot Advance. Le troisième 3.33. Et le quatrième s'appelle 3.0 plus 1.1, bien sûr. 1.0 plutôt. Puis qui s'appelle Thrice Upon a Time. Fait que là, nomenclature confuse, mais je suis done avec ça. Fait que là, il dit comme, OK, ben ça, ça va être ma fin à Evangelion, puis je pense pas y retourner. Puis, fait que c'est quelque chose qui se vaut la fin de quelque chose qui existe depuis comme maintenant 30 ans, qui, moi, fait partie beaucoup de quand je suis venu à Montréal, j'avais vu les premiers épisodes sur cassette, puis j'attendais qu'ils sortaient en VHS.
Mm-hmm. Je me souviens qu'on a parlé de ça, ça devait être quand on a parlé de Shin Godzilla.
C'est quelque chose qui était très important pour moi dans le temps, puis qui est tout de même resté dans ma tête. Ce qu'il a fait avec la fin de Evangelion est vraiment comme, ça suit tous les thèmes qu'il y avait dans le show jadis. Et la plus grosse surprise de tout ça, c'est que c'est une fin tout de même heureuse qui ne trahit pas tout ce qui était avant. Plein d'affaires rough qui arrivent à des personnages que t'aimes, mais ultimement, il y a vraiment un gros message de allez jouer dehors, les amis. Ça va être que si on va tous jouer dehors ensemble et on s'aide, on va vivre dans un meilleur monde.
Mm-hmm.
Puis, tandis qu'avant, c'était plus comme crissez-moi la paix avec vos hosties d'affaires, allez jouer dehors, sinon je vais tuer tous les personnages que vous aimez. Là, c'est plus...
Il est assagi un peu,
puis je trouve aussi que ces films-là, ils frappent différemment. Il y a beaucoup... Il y a comme 35 ou 40 minutes de ce film-là qui se passe juste dans un village de réfugiés d'apocalypse qui est vraiment sweet, qui est studio Ghibli-esque de apprendre à faire pousser du riz, puis à comment survivre à l'apocalypse ou comment vivre en communauté après la fin du monde, qui est vraiment comme super touchant puis vraiment beau. Je m'attendais pas à ça.
J'ai
vraiment été surpris. Fait que tout ça pour dire que j'ai trouvé ça vraiment, vraiment bon. Il y a du monde qui m'ont demandé, je devrais-tu écouter les quatre films? Faut-tu que j'écoute la série? Les quatre films sont comme un genre de tout de même de gros commentaires sur la série qu'il a vu avant, mais si quelqu'un a un projet média de longue haleine qui souhaite se clencher la série End of Evangelion et ces quatre films-là, mettons, faites ça pendant un mois, là, pacez-vous. Là. Écoutez, il y a 26 épisodes. Écoutez-en un par jour, pense-y, savoure. Clenche pas quatre films en un week-end comme moi j'ai fait, parce que là, après ça, il y a un documentaire sur lui alors qu'il faisait le dernier film qui est sur Amazon Prime. J'ai écouté direct après, là, j'ai vécu dans sa tête ce week-end, puis je suis comme pas encore sorti. Là. J'écoute des soundtracks d'Evangelion, puis là, je suis en train de trouver des inspirations de ça, puis me propager là-dedans. Là, ça va pas bien, là. Ça va, je suis super heureux, mais en même temps, ça va pas bien. Mais, je le recommande. Encore là, les écouter, les quatre de suite, ça, c'est un peu comme écouter un long Shin Godzilla, ce qui est très cool, mais en même temps, c'est difficile de vraiment s'accrocher au personnage comme moi je me suis accroché au personnage parce que je les connais depuis 1998. Je les aime depuis ce temps-là. Là. Quand Misato elle boit sa grosse bière forte, dégueulasse dans sa cuisine, je suis comme « Je suis là, babe! Yes! » Mais bref, c'est ça. J'en ai assez parlé, Krim, on en vient déjà à la demi-heure. Alors je me tais maintenant, mais je le recommande, l'expérience. Vivez-les. Donnez-moi des nouvelles.
Écoute, ça me donne le goût quand même. Moi, toutes les affaires qui sont somewhat imposantes, comme ça, tu sais, que c'est pour ça que j'ai jamais regardé Game of Thrones, à fond. Parce que tu sais, quand je me suis dit, bon, ouais, je regarde Game of Thrones, il y en avait déjà beaucoup. Puis là, j'étais comme, oh, tu sais. Mais en même temps, si je me... Si, tu sais, comme cette année, ce que j'ai fait, j'ai regardé tous les films de Brian Trenchard-Smith. J'ai pas fini encore, mais tu sais... parce que j'ai stallé en temps, mais... Ça, ça me... Même ça, pour une raison qui est complètement mystifiante, regarder 25 films de série B, je suis comme, ouais, ça, je suis capable de faire ça. Regarder une série au complet, je suis comme, oh, tu es moi. Fait que genre, je sais pas vraiment.
Tu sais, c'est parce qu'une affaire qui est intéressante, c'est, tu sais, il y a beaucoup de ce qui s'appelle du lore, tu sais, du backstory de science-fiction et du techno-babble. Puis de, c'est, tu sais, comme, une affaire qui est vraiment kickass dans Evangelion, c'est que tout est nommé avec des termes anciens bibliques. Mm-hmm. Fait que, je pense qu'au Japon, ça sonne juste cool, mais pour nous autres en Amérique du Nord, on est comme... La pièce au secrète s'appelle le Central Dogma. C'est quoi ça, tabarnak? T'sais, comme, c'est super intriguant. Puis, dans les films, dans la série, c'était comme des mystères. T'es comme, oh, qu'est-ce qu'il y a au Central Dogma? Tandis que dans les films, c'est comme, il y a une affaire qui s'appelle le Central Dogma qui a une grosse patente comme ça. Eh ben,
ouais.
Tu te fais juste comme pitcher des affaires qui sont tellement étranges qu'à un moment donné, comme, t'arrêtes de le comprendre parce que tu laisses les bouts humains t'amener au travers parce que quand il te parle des parchemins de la mer morte puis que tout a été prédit là-dedans, puis à un moment donné, t'es comme, OK, vas-y, continue, je m'en vais, c'est correct, là, ça va. Parce que c'est drôle, parce que quand une fois que le show, que les films flippent comme là, le nouveau statu quo, puis qu'ils continuent à parler de des affaires qui se sont passées, là, c'est des affaires qui me sont nouvelles, fait que je pouvais plus me fier à ma connaissance de la série. Fait que comme, je t'ai rendu un bout que je le savais pas, moi, non plus, de quoi qu'il parlait. Mais j'embarquais là-dedans, puis là, je suis comme, ah, OK, c'est bon, c'est ça qui arrive.
Ben, tu sais, ça, je pense que c'est une bonne façon de vivre avec les choses, là, en général. Là, mm-hmm. Comme ça m'est arrivé cette semaine, j'ai regardé un film sur la Deuxième Guerre mondiale, ou qui était juste après la Deuxième Guerre mondiale, La Pele de Skin, avec Marcello Mastroianni. Puis, honnêtement, il manquait peut-être un peu de contexte historique pour comprendre exactement qu'est-ce qui se passait. Mais à place de faire, ah, je comprends pas, j'ai pas. Tu sais, tu fais juste. Tu l'acceptes et tu te laisses porter par ça, puis ça fait bien. Tu sais, je veux dire, je pense que c'est pas vrai. Il y a beaucoup d'affaires que j'ai appris moi dans la vie, des choses que je sais à cause que je les ai vues dans des films, puis ça a créé une base, tu sais, pour justement, même, tu sais, des affaires de la Bible, peut-être que toi tu pourrais soudainement comprendre ou même avoir une idée de parce que tu les as vues dans ça. Tu sais,
la lance de Longinus, celle qui a été utilisée pour percer le côté de Jésus-Christ,
c'est ça, oui. Comme celle-là, par exemple. Ouais. Mais bref, ouais, ben c'est ça. Moi, je vais parler du film que j'ai vu hier.
Oui.
Un film que j'ai regardé et que je remettais beaucoup au lendemain, car c'est... Ben, en fait, j'ai regardé Motherless Brooklyn de Edward Norton, réalisé et avec Edward Norton, qui est un film qui est sorti en 2019, puis il est sur Crave en ce moment. Qui est un film qui, quand il a joué à TIFF en 2019, c'était mon film le plus attendu. J'avais vraiment hâte de le voir parce que j'avais lu le livre de Jonathan Lethem comme en 2002, genre, quand Edward Norton a annoncé qu'il allait faire un film de ça. Fait que c'est le passion project là, d'Edward Norton depuis presque 20 ans.
On l'a aussi, chez moi, ma copine l'a acheté parce qu'elle adore Jonathan Lethem, puis je veux le lire un moment donné. Je me demandais, mais en fait, ben vas-y, avant que je pose des questions là-dessus, vas-y.
Puis donc, quand c'est sorti au TIFF, tout le monde était comme, ah, c'est poche. Fait que là, j'ai modifié mon horaire pour me dire, bon, ben, je vais le pogner quand il va sortir au cinéma.
Est-ce que tu te rappelles qu'est-ce que tu as été voir à la place?
Non, ça c'est sûr que non. Non, parce que trop. Mon horaire de TIFF change tellement tout le temps.
Ouais, toi, tu m'entends parler de voir 4 films en un week-end. T'es comme, c'est comme ce que tu bois, Yannick, de la Molson Ultra, de la petite bière.
J'ai regardé 4 films hier. Mais, puis au TIFF, j'ai déjà regardé 6 films. Mais là, après ça, j'avais tellement mal à la tête, là. Je filais pas, ben c'était pas une bonne idée. Mais c'est ça, tu sais, puis ça change pas. Dans le jour, tu reçois une demande, hey, tu veux-tu venir interviewer quelqu'un? Fait que là, tu fais OK, tu sais, bon, bref. Fait que j'avais juste décidé de pas le regarder, puis je me suis dit, je vais regarder ça plus tard, Motherless Brooklyn, tu sais. Puis on aurait dit que ça m'intéressait moins à cause qu'il y avait eu une réception critique négative. Et un des aspects qui était négatif des critiques, c'est que ça changeait beaucoup ce qu'il y avait dans le livre. Fait que premièrement, le livre de Jonathan Lethem qui est écrit en 99, je pense, ça passe en 1999. Puis c'est un peu pastiche de film noir, tu sais, les gens parlent comme dans les années 50, puis c'est des gumshoes, puis des détectives privés, tout ça. Puis c'est un peu décalé, tu sais, ça existe pas vraiment. tu sais, la façon qu'ils parlent, puis la façon qu'ils agissent, puis leur fonction dans la société n'existait pas vraiment en 1999, même si c'est dans ce monde-là que ça se passe. Fait que je pense que Edward Norton a pris le film, puis il l'a tassé, il l'a mis en les années 50, je pense que c'est 1957. Puis à la base, ce que le livre raconte, tu sais, je vais te raconter ce que le livre raconte, puis je vais aller dans qu'est-ce que
le film Norton
a ajouté, là. Le film raconte l'histoire de Lionel Esrog, un détective privé qui travaille pour son mentor Frank Mina, qui est joué dans le film par Bruce Willis. Puis Lionel Esrog a, dans le livre original, il décrit ça comme le syndrome de Gilles Latourette, mais dans le film, il dit pas que c'est ça, parce que c'était les années 50, c'était pas connu tant que ça, fait que je sais pas trop comment il appelle ça, là, il dit comme « I got threads in my brain », genre, tu sais, que quand il stick sur des affaires, il y a comme des tics, pis tout ça. Puis Lionel Esrog, c'est ça, il travaille pour ce boss-là qui sont minables, ils sont pas des très bons détectives privés, ils sont pas particulièrement efficaces. Et dans une genre d'embuscade, Frank Mina est tué. Fait que là, Lionel Esrog, lui, veut savoir qui a tué son mentor, qu'est-ce qui s'est passé. Puis là, dans le livre, c'est une histoire assez standard, il me semble, de ce que je me souviens. T'sais, c'est une enquête, tout ça. Mais, Edward Norton, lui, il a décidé que ça allait être son Chinatown. Fait que ça devient,
okay,
en majeure partie, à propos d'un un développeur urbain véreux joué par Alec Baldwin, qui est basé sur Robert Moses, qui était un dude, un genre d'architecte urbaniste de New York qui a construit la majorité des ponts. Puis qui...
Oui, il y a un livre qui est pratiquement juste sur lui, oui, qui s'appelle genre Architect of Power, exact, ou quelque chose comme ça.
Oui, The Price of Power.
The Price of Power.
C'est par Robert Caro.
Oui, oui.
Ouais. Edward Norton, que son grand-père, j'ai appris après ça, que son grand-père était un genre d'activiste pour la mobilisation contre la destruction des taudis, puis de low-income housing, ces affaires-là, qui avait une fondation, puis tout. Fait qu'Edward Norton a décidé de mettre ça dedans. Fait que ça devient une histoire de conspiration à grande échelle qui inclut un club de jazz runné par Michael K. Williams.
OK.
Puis une fille jouée par Gugu Mbatha-Raw.
OK, ouais, ouais.
Qui est comme... Elle, a travaillé au club de jazz, puis elle a rapport avec ça aussi. T'as Willem Dafoe qui arrive avec une grosse barbe, qui, lui, est un genre d'architecte déchu qui a de l'information que Lionel aurait peut-être...
T'es en train de me dire que dans ce film-là, il y a des faces.
Ah oui, il y a des faces. Il y a Bobby Cannavale, il y a Leslie Mann qui joue la femme de Bruce Willis, dis-moi quelqu'un qui sonne et qui n'a pas l'air d'exister en 1957, c'est bien Leslie Mann. Ça, j'ai trouvé le casting assez whack. Mm-hmm. Mais bref, c'est ça. Fait que ça devient une longue affaire compliquée. Ça dure 2h45. C'est très élaboré. Beaucoup de meetings, beaucoup de manches roulées, puis tout ça, puis de jazz, puis de la forme même.
À date, t'as l'air de décrire quelque chose, par exemple, qui est tout de même dans tes cordes.
Oui, fait que c'est ça que j'allais dire. J'ai tout de même fucking aimé ça pas mal. Puis, tu sais, je vais pas dire... la réalisation d'Edward Norton, des fois, est vraiment weird. Tu sais, fait que, mettons, quand on voit Alec Baldwin pour la première fois, le film fait tout dans son pouvoir pour pas qu'on voit sa face, pour qu'il ait l'air vraiment imposant. Mm-hmm. Puis ça soit comme un reveal. Puis, tu peux pas faire ça avec Alec Baldwin de toute façon.
Oui, qui a une voix super.
Exact. Ouais. On sait tout de suite c'est qui. Puis deux, c'est un peu bâclé. T'sais, la façon qu'on voit éventuellement sa face, c'est pas bon. C'est pas bien fait. Il y a beaucoup d'affaires un peu pour de mettre en termes de visuel la pensée de Lionel, la façon que son cerveau fonctionne, qui sont vraiment cheap, tu sais, ça rewind, ça fait des flashs, tu sais, puis ça, c'est vraiment laid, c'est pas... Puis c'est tourné par Dick Pope, qui est le directeur photo, entre autres, de Mike Lee, tu sais, qui est un directeur photo qui est très naturel, puis c'est en digital, puis je me souviens que le monde disait, ah, c'est fucking laid, tu sais, c'est vraiment laid, on dirait EastEnders, on dirait
un soap britannique.
Un soap britannique, puis en le regardant, moi, j'étais comme, je sais pas, ce monde-là, il en filme du bon, là, tu sais, c'est sûr, c'est pas super imagé, puis tu sais, contrasté, puis tout ça, mais je trouvais que c'était bien fine, là, tu sais. Puis Un autre problème, c'est que Edward Norton, il aime ça en esti faire des tics. On l'a vu dans Primal Fear, là, il le fait énormément. Dans The Score aussi, il fait des tics. Puis là, il s'est vraiment donné un cadeau, un personnage qui ne fait que des tics. Et ça, des fois, c'est fucking gossant. T'sais. Mais, somme toute, le film est vraiment ambitieux. Puis il parle de beaucoup d'affaires différentes. Et il le fait de façon très... C'est très confiant, tu sais, comme... Je pense, c'est extrêmement pas sexy, là. C'est un film sur le zonage urbain, à la base, tu sais. Il y a quelques guns dedans, il y a une scène d'action, mais à la base, c'est du monde qui parle de zonage, puis, tu sais, de permis, puis d'affaires de même.
Tu sais, au moins, Chinatown, c'était comme l'eau. Quelque chose qui est important, puis qui est...
Ben, dans ça, c'est important aussi. C'est une idée d'exproprier des places pour mettre tous les gens pauvres et les gens noirs à l'extérieur et mettre, mettons, des highways. Ou mettre...
OK, comme justement comme dans la famille de Norton, oui.
Ouais, ça, puis comme dans la vie de maintenant. Là,
oui, absolument.
Ce qui se passe en ce moment. Fait que, tu sais, puis c'est ça. Puis ça, tu vois, évidemment, que Norton fait des, rend des parallèles avec Trump aussi, là, tu sais, parce que la famille de Trump, c'était ça aussi, là, tu sais. Fred Trump.
T'sais. Ben oui, épicier, jadis. Ouais. Au début, épicier, mais ouais. Bon.
Puis après ça, c'est ça, Slumlord et... Mangeur de marde qui n'a pas donné d'amour à son fils. Et là, maintenant, tout va mal à cause de ça.
Tout va mal à cause de ça.
Puis, fait que bref, c'est ça. Tu sais, il y a beaucoup de problèmes. Puis je peux comprendre pourquoi ça pourrait ne pas parler à des gens.
Mm-hmm.
Parce que, tu sais, il y a beaucoup d'affaires que t'es comme, hey, ya, ya. Tu sais, surtout, genre, Edward Norton qui est tout en train de faire... Tu sais, du genre de qui en met beaucoup là, pour la nécessité du personnage. T'sais, tu vois, clairement, lui, il va. Là, il nage dans la rivière de jambon. Puis, même à ça, j'ai quand même trouvé ça fucking bon. T'sais, j'ai trouvé que c'était un bon film avec beaucoup d'ambition puis un film très personnel. Il y a plein d'affaires là-dedans qui sont clairement là-dedans parce que Edward Norton veut les mettre là-dedans. Non pas parce que c'est ça que ça demande, c'est pas ça que le studio veut, c'est pas plus commercial. T'sais, c'est extrêmement anti-commercial comme film. Même si c'est pas expérimental, puis c'est pas. C'est assez classique de son approche. Mais tu sais, même comparé à Chinatown, c'est comme. C'est quand même wack que tu penses que le monde va payer pour aller voir ça. C'est que ça leur tente de voir ça plutôt. Mais je pense que c'est quand même. Tu sais, vraiment intéressant, puis bon, ça amène des bons points. Puis tu sais, j'ai tout le long, ça dure déjà 45, puis j'ai pas trouvé ça plate. Ce qui est quand même. C'est surprenant parce que c'est un film que tout le monde...
Ça dure combien?
2h45.
Oh, Chris! J'avais compris 1h45. Ouais. 2h45, OK, ouais. C'était tout de même un morceau, là.
Puis, tu sais, les gens sont comme, c'est fucking long, c'est plate, c'est laid. Puis moi, j'étais comme, tu sais, pour vrai, j'étais quand même assez absorbé par cette histoire-là, même si j'avais lu le livre, tu sais. En plus, c'est ça, ça change, tu sais. Puis j'ai lu une entrevue avec Edward Norton qui disait... Il l'a changé essentiellement parce que quand il essayait d'écrire un script où ce que ses personnages disaient ces affaires-là, puis ça se passait en 1999, il était pas capable de l'imaginer. Puis ça, c'est comme une bonne raison de changer les choses. Là. Tu comprends?
Ouais.
Tu sais, l'imager, puis le langage d'un livre, c'est pas toujours une chose qui peut se transmettre facilement.
Puis cette vibe-là est dans le livre anyways. Fait
exact.
Pourquoi pas?
Exact. Fait que tu sais, je trouve... De là à dire que c'est une bonne adaptation, pas vraiment. Pas selon les standards normaux de qu'est-ce que c'est une bonne adaptation. De dire que c'est un bon film, je sais pas non plus. Mais de dire que j'ai aimé ça, ça c'est clair. Ça m'a beaucoup parlé. Il y a beaucoup d'affaires intéressantes dedans. C'est bien fait, c'est bien rendu. Puis même si ça a beaucoup, beaucoup de problèmes puis beaucoup de choses qui sont mal faites. C'est un film super ambitieux puis personnel puis t'sais, c'est un blank check là, pour ainsi dire là. Puis ça c'est comme je trouve ça quand même ambitieux. Il y en a de moins en moins de ça. Là, on va en parler d'un autre blank check tout de suite après là, mais c'est ça. Après avoir vu Annette aussi, j'étais comme t'sais, je pense que j'aime mieux un film qui est whack puis qui a peut-être des idées whack mais qui les présente de façon intéressante et inattendue. Qu'il y a quelque chose qui fait bien quelque chose de dull, tu sais. Fait que c'est ça que j'ai trouvé avec Mother's Brooklyn. Après ça, tu sais, je sais pas si je qualifierais ça d'une recommandation constante à tout le monde, tu sais. C'est vraiment, si vous avez été le moindrement intéressé par ce que je disais, tu sais, puis l'idée qu'il y a une, je vais vous dire tout de suite, là, il y a une scène d'au moins 5 minutes où ce que Ed Norton lit le vieux journal. Fait que Il y a peut-être ça aussi, là.
Ouais, ce film-là, il y a vraiment plus ton number que je pensais, là. Il y a toutes les affaires de Alex dedans.
C'est
là.
Ça. La musique, elle est vraiment bonne aussi. C'est Daniel Pemberton, tu sais, oui. qui fait... Puis il y a comme un peu... Il y a une toune de Radiohead ou de Tom York dedans, tu sais. Fait qu'il fait un peu du jazz, mais avec une dissonance de Radiohead. Puis je suis pas fan de Radiohead, mais je trouvais la musique quand même
bonne. Ben, il fait des affaires époque-ish, le fun. Daniel Pemberton a aussi fait la soundtrack de Man From U.N.C.L.E. Que je trouve qu'il y a tout de même... Tu sais, je me rappelle plus de la soundtrack, puis je mets comme j'ai... Dans mes playlists de Spotify, comme dans les musiques de travail... J'ai mis tout de même une coupe d'affaires de lui, ouais. de ces genres de pastiches de l'année 60 pour Man From U.N.C.L.E. Plus que, bien sûr, j'ai écouté le film avec le monstre...
Armie Hammer.
Armie Hammer, oui. Le monstrueux Armie Hammer.
Moi, je me souviens d'une seule scène. Tu sais, je me souviens d'avoir trouvé ce film-là correct. Je me souviens d'une seule scène. C'est une scène où je pense Henry Cavill mange une sandwich assis dans un truck. Puis il y a Armie Hammer qui se bat avec un dude out of focus dans le...
Ouais, dehors, ouais. C'est comme ça. Sur un bateau, genre. Ouais. Là, ouais.
C'est la seule scène que je me souviens, puis je me souviens que c'était quand même drôle, c'était bien fait, mm-hmm. mais tu sais, c'est un film que je n'avais jamais revisité.
Ben, je te dirais que ça, c'est un film que tu pognes 15 minutes quand il passe à Showcase un samedi après-midi. C'est mon médium de rewatch préféré de Man From U.N.C.L.E.
Beaucoup de Henry Cavill, c'est ça aussi. Je te dirais, beaucoup de ces films qui sont pas... Superman ou un gars avec une moustache qui se bat avec Tom Cruise, là. C'est des affaires où c'est que, ah, c'est quoi ça? Ah, c'est Henry Cavill, ça? Ça, je me souviens de ça dans une chambre d'hôtel. Henry Cavill, Sigourney Weaver, c'est quoi ça, cette affaire-là? Puis là, à la fin, Henry Cavill, il fait exploser Sigourney Weaver avec un lance-roquette. Et c'est The Cold Light of Day, avec aussi Bruce Willis, tout est dans tout.
Ah oui, ça, je me souviens que c'était un... C'est la première fois que je voyais comme popper un Henry Cavill straight to DVD, ouais. mais la réponse était que le bon Bruce est impliqué, c'est
mais,
ça qu'il fait.
Mais c'est ça, c'est tout le film est que Bruce meurt au début, puis là, ouais. il se venge. Là, mais...
Écoute, on le sait maintenant, Bruce, c'est ça qu'il fait.
Ouais, puis il est pas beaucoup dans Mother's Brooklyn, tu sais, il est correct, là. Tu sais, de temps en temps, Bruce Willis, il a l'air d'essayer un peu. Ça arrive, mettons.
Je pense que ça dépend à qui il demande. Mettons, ouais. si Ed Norton il demande, j'imagine qu'il essaye un peu plus.
Mais il a clairement aussi été payé 1 million pour une journée de travail. Ça, c'est évident aussi. Mais tu sais,
puis s'il meurt, ça veut dire qu'il y a un bout de ça qui est sur un lit.
Un petit court, très court bout, mais oui, effectivement.
Écoute, regarde. À l'avenir, nous, aux auditeurs des voyeurs de vue, si vous voyez du Bruce Willis récent, faites-nous savoir si dans les scènes...
Il marche.
Il marche. Est-ce qu'il est assis ou il est sur un lit?
Ouais.
Parce que je pense que vous allez voir que si vous ne savez pas quoi écouter comme film, on vous donne un devoir de voyeur de vue. Prenez-le sur Netflix. Trouvez un nouveau film ou un film semi-récent. Un Bruce Willis des 10 dernières années, mettons. Puis sortez votre chronomètre, votre table de chronomètre, puis dites-nous combien de temps il est là. Puis s'il est assis ou couché la plupart de ce temps-là.
Ben, tu sais, j'ai écouté Trauma Center, là, ça fait quand même un petit bout à cette heure. Puis dans Trauma Center, il bouge, mais tu sais, il est juste au début puis à la fin. Fait qu'il est effectivement debout, mais le moins possible. Moi, vraiment, c'est Fire with Fire, là, qui est avec Rosario Dawson puis Josh Duhamel, où est-ce que Bruce Willis porte une chemise hawaïenne puis il est assis tout le long. Je pense que peut-être il se lève, mais il marche pas. C'est plus cher s'il faut qu'il se lève puis qu'il marche.
Ouais, parce qu'il est comme... C'est une scène... Hey, je suis tellement choqué que je me leverais.
Ouais.
Mais ça n'arrive pas.
Exact. Fait que c'est ça. Motherless Brooklyn, mettons une semi-recommandation là, pour ceux qui ont la couenne dure un peu, je pense.
Pour 2h45, pour... Ouais,
c'est ça. Mais c'est sur Crave, donc si jamais cela vous intéresse.
Mm-hmm. Ce samedi, on a fait une petite double date de voyeurs de vue. C'était fort agréable. On est allé au cinéma moderne pour aller voir le nouveau film de Léo Carax. On était voir Annette, qui met en vedette Adam Driver, Marion Cotillard, ainsi que, ma foi, la musique de Sparks. Il y a aussi Simon Helberg de Big Bang Theory, qui montre que la plupart des acteurs, une fois qu'ils sont plus dans Big Bang Theory, c'était là se peigner comme un adulte se faire pousser une barbe. Soudainement, ils ont l'air de des êtres humains normaux.
J'ai fait une entrevue avec Kunal Nayar pour un film qui a finalement jamais sorti. Fait que il est sorti comme sans sortir au cinéma. Fait que j'ai comme manqué la sortie. Mais jamais dans 100 ans tu saurais que Conan O'Hear il jouait un petit nerd dans, tu sais, il avait une grosse barbe puis il était comme un peu cocky puis tout là, il est fucking riche là.
Ça, ouais, écoute,
tu sais, il est plus riche que beaucoup de gens là que vous pensez qui sont riches là. Le monde dans Big Bang Theory sont plus riches que ça.
Sérieux là, si tu fais un sitcom qui sera à 100 épisodes, tu deviens très riche. Mais mm-hmm. un sitcom qui s'est rendu à 200 plus épisodes, oublie ça. Tu t'achètes une île.
Qui a toujours été populaire. Tu sais, qui a toujours fonctionné. Parce qu'il y a des sitcoms qui continuent, même si c'est moins populaire. Tu sais, puis juste pour se rendre à 100 épisodes, dans le fond. Mais tu sais, Big Bang Theory, le monde écoutait encore ça tout le temps. Là, tu sais, jusqu'à la fin. Là.
C'était l'émission la plus écoutée jusqu'à la fin. Puis CBS était comme. On va tout. On va vous en donner encore plus, vous restez 2 ans de plus, ouais. Là, puis ils ont fait comme, non, il faut se calmer.
Sérieusement, il faut que je cesse de faire ça.
Faut que j'arrête, là, tu sais. Faut que j'arrête. Bref, c'est les personnages principaux de Annette, réalisé par Léo Carax, qui est écrit par Ron et Russell Mayall du band Sparks.
Oui, on a parlé. Ouais,
on a parlé du documentaire de Sparks il y a à peu près 2 mois. Mm-hmm. Et puis justement, dans le documentaire de Sparks, il parle souvent Ronnie Russell qui avait des aspirations de faire du cinéma, puis que ça n'a pas fonctionné avec mm-hmm. certains réalisateurs. Et tu vois dans le documentaire qu'ils sont sur le plateau de tournage de Annette, justement, un mm-hmm. film qu'ils ont écrit, puis qu'ils ont aussi écrit la musique. Ce qui se passe dans Annette, c'est qu'on a. Adam Driver joue Henry McHenry, qui est un stand-up comédien, qui est un humoriste qui est supposé être edgy, funny, et qui est un artiste choquant.
Mm-hmm.
Mais de ce qu'on nous montre dans le film, il ne semble pas être très bon.
Non, c'est ça. Il est super populaire.
Il est super populaire, mais il n'est pas bon. Puis,
il serait pas le premier, mettons, à être super populaire puis pas bon.
Puis le fait que je navigue dans ces eaux-là, dans mon autre podcast, trop bien, m'empêche de... dire à qui me fait penser ou à qui serait son analogue. Mais bref, il tombe en amour avec une chanteuse de renommée internationale qui s'appelle Anne, qui est jouée par Manon Cotillard, qui, elle, tu sais...
Ben, elle chante de l'opéra.
Elle chante de l'opéra, puis elle fait de l'art fancy, mm-hmm. dans le fond, comparément à lui et son show The Ape of God, dans lequel il y a juste une robe de chambre, puis ils se promènent. Ensemble, sous les feux de la rampe, ils sont le couple parfait. Lorsqu'ils sont seuls, tu vois que ça marche pas exactement. Il y a des remous. Surtout, peut-être pas nécessairement ensemble, mais lui, il a shit talk dans son show.
Ouais.
C'est vu comme, hey, il fait des jokes, mais dans le fond, il fait peut-être pas des jokes tant que ça.
Ouais, ouais.
Éventuellement.
Il y a une affaire qui est importante aussi, c'est qu'elle ajoute tout le temps des personnages tragiques.
Oui.
Elle meurt toujours dans tous ses shows tout le temps. À la fin de chaque. Tu sais, elle meurt une fois par jour, mettons.
Puis lui, il trouve ça niaiseux.
Ouais.
Il trouve ça fucking niaiseux. Ensemble, ils ont éventuellement une enfant qui s'appelle Annette, qui est appelée à changer leur vie. Puis ça, c'est très clair aussitôt qu'on la voit, parce que dans le film... Est-ce que c'était un spoiler de dire comment Annette est représentée dans le film? Parce que c'était tout de même surprenant, je le savais pas.
Moi, j'ai vu du monde en parler, fait que je sais pas si c'est dans le trailer, je pense pas.
C'est... Probablement pas dans le trailer.
Parce que je pense qu'il voulait. Si tout le monde voyait ça dans le trailer, personne irait voir Annette.
Ouais.
C'est déjà assez rough, là. C'est
tout de même vraiment rough. leur enfant est pas. Regarde, on va peut-être pas le dire, mais leur enfant est pas joué par un enfant humain,
mm-hmm.
Pas par un adulte non plus. Mais leur enfant est représenté par un autre symbole. Et ce qui change leur vie. Et par la suite, on voit comment que Henry deal ou ne deal pas bien avec ce changement de vie-là. Mm-hmm. Même chose avec sa femme. Et puis, il y a plein de choses qui en découlent de ça, dont la mort du personnage de Marion Cotillard. Mm-hmm. Et qu'est-ce qui arrive par la suite à Henry et à sa vie.
C'est une comédie musicale.
C'est aussi une
comédie. C'est pas juste une comédie, c'est une opérette, en fait.
C'est une opérette, oui. Ouais. C'est une opérette. Il y a une différence entre opérette et comédie musicale. Je pense qu'on va rentrer plus en profondeur là-dedans. Mais une affaire que moi, je veux dire, c'est que quand on est sorti et on en a parlé, Je pense que t'aimais ça plus que moi.
Ouais.
Mais dans un week-end où j'étais vraiment dans ma tête face à ce que je regardais, dans mes affaires de Evangelion, je continuais tout de même à penser à Annette et je pense que j'aime plus ça que quand on est sorti de l'avoir regardé. Puis je continue à y penser, puis plus ça va, je trouve ça cool. Ça s'assit plus confortablement dans ma tête.
Ouais, ouais, ouais. Ben oui, parce que, tu sais, moi j'ai vraiment aimé ça beaucoup sur le moment, là. Tu sais, faut dire que j'avais pris genre 2 bières dans l'après-midi avant de venir. Fait que j'étais un petit peu comme, ah ouais, tu sais. Mais c'est vraiment, c'est très viscéral comme mise en scène, puis comme proposition. Puis ça, c'est quelque chose qui fonctionne pas. Moi, je trouve que, mettons, Damien Chazelle, il fait ça aussi. Là, c'est jamais à la même intensité. Mais tu sais, Whiplash, c'est un film, il te pogne. Puis là, il part un beat de drum. Puis là, tu sais, t'as comme pas le choix de le suivre. Fait que, à un moment donné, tu deviens un peu
c'est son
comme,
tempo.
T'es pogné dans le tempo. Puis Annette aussi fait ça un peu, tu sais. Mais c'est comme un tempo glauque, déprimant, weird, de tune, style comme stridente, fucked up, genre. Puis j'ai vraiment aimé ça, tu sais, mais je pense que le film, mettons, comme t'as dit, quand on est sorti du film, t'as dit, ça paraît honnêtement que c'est un film écrit par du monde qui fait de la musique. Puis je pense que pour vrai, tu sais, ça c'est la clé de Annette, là. Parce que c'est un concept album qui est un film. Tu sais, des concept albums, c'est tout le temps un peu stupide, là, tu sais, c'est tout le temps un peu des idées démesurées, tu sais, des trucs un peu quasiment...
Nous sommes tous dans un monde... Où nous sommes des bulles de savon.
C'est ça, tu sais, ou comme Tommy, can you hear? Tu sais, Tommy de The Who, c'est fucking. Le film est stupide aussi, là, je veux dire, mais tu sais, moi j'aime beaucoup ça, mais tu sais, c'est pas une affaire qui se tient nécessairement, c'est beaucoup dans les émotions, tu sais, puis là, t'es comme, là, je vais écrire une tonne du point de vue du Acid Queen, tu sais, fait que des affaires de même, fait que tu sais, ça devient un peu abstrait, puis ça devient beaucoup plus tourné sur les idées que, mettons, peut-être les thèmes, tu sais. Fait que, parce que c'est vrai que si tu regardes Annette puis tu regardes juste l'histoire d'Annette, non seulement c'est pas vraiment compliqué, c'est assez problématique. Tu sais, puis c'est ça que Marie-Lise a dit à ma copine quand on est allé, tu sais, t'es comme, bah, tu sais, c'est un peu une glorification de la toxicité, des relations toxiques, tout ça. Puis je suis pas entièrement contre cette idée-là. Sauf que je ne sais pas à quel point c'est glorifié réellement, tu sais.
Ben, j'ai pas l'impression que c'est glorifié, mais cependant, comme tu disais que ça va pas dans ces thèmes, c'est pas interrogé pour aucune minute. Puis c'est là où que on peut en revenir à l'idée que c'est un film écrit par des musiciens. Parce que, justement, comme justement Marie, elle a dit ça dans son review Letterboxd, elle avait dit que c'est une histoire banale. Et ça, c'est vrai, mais encore là, c'est pour moi que c'est là la clé, que c'est des musiciens, tu sais. C'est banal d'écrire comme sujet « Ma blonde me quitter, mais je l'aime encore. »
Ouais, exact.
Mais si tu trouves la bonne façon de twister ça en chanson, ça peut être renouvelé incroyablement. Fait que, tu sais, je trouve que l'histoire, c'est ça, c'est de même. Puis si t'es sur cette... fréquence-là, ou si quand tu repenses à cette fréquence-là, cette idée-là, c'est comme une chanson, c'est comme un album concept, tu vas peut-être plus apprécier le film, ou il va peut-être être plus confortable dans ta tête, du moins, moi, c'est comme ça que j'ai perçu, puis tu sais, je repensais comme en faisant, mettons, mon jogging, je suis comme, ah ouais, mais c'était cool cette affaire-là, puis comment c'est présenté, puis tout ça, puis tu sais, la réalisation de Léo Carax, justement, elle appuie entièrement, de façon opératique, toutes ces affaires-là, ouais. Ça vraiment.
Ils sont dans une tradition Sparks de musique, de vieille musique, là. Pas juste de l'opéra, il y a clairement beaucoup d'opéra, mais aussi le concept d'un murder ballad, qui est un concept de folklore, je pense, britannique, mettons, là, européen, qui commence comme dans les années 1600. C'est des tunes à propos d'un meurtre. Puis, tu sais, il y a des tunes, genre, qui sont des comptines, là, que nous, on connaît comme étant des comptines, qui sont en réalité à propos de dire, hey, j'ai rencontré une fille au village, je l'ai amenée sur le bord de la rivière, puis j'ai ouvert la tête avec une roche. Tu sais, puis c'est un peu... C'est ça, dans le fond. Annette, c'est un murder ballad, tu sais. C'est comme un opéra, un murder opera.
Ouais.
Tu sais, dans un sens. C'est un film... Fait que, tu sais, je pense que la façon, mettons... évidente de prendre le film, puis tu sais, c'est pas de la. Si quelqu'un fait ça, c'est totalement normal. C'est de penser qu'il faut avoir de la sympathie pour Adam Driver.
T'sais. Ouais.
Mais le, il est extrêmement dépeint comme étant une marde depuis le début. Moi, j'ai eu aucune sympathie pour lui réellement.
Non, moi non plus, parce qu'il me faisait passer à humoriste ABC.
Oui, c'est ça.
Tu sais, on parle des films quand il y a des affaires qui sont proches de nous, on aime ça. Comme ouais. Mettons des vieux journaux ou moi, de mes propres lubies. Mais moi, mettons, étant scénariste, quand je vois un film qui m'envoie d'être un scénariste, je suis comme « fuck ça pour commencer mm-hmm. ». Puis je connais plein d'humoristes, du milieu d'humour, je connais plein de gens merveilleux qui font ça. Mais en même temps, j'ai une affaire comme « ah, quand il y a un humoriste dans un film, comme « et tabarnak, ça, ça regarde pas bien ouais, ». Ouais. Mais oui, continue ça, si tu disais.
Non, ben, c'est juste c'est cette idée-là, tu sais, c'est un peu dans des, c'est dans des termes extrêmement universels et effectivement masculins et misogyne, mais parce que je pense que, tu sais, moi j'ai pris ça comme Sparks vont chercher une tradition narrative, musicale de v'là 500 ans, tu sais.
Ouais.
Puis c'est sûr que ça, c'est whack, là, tu sais. Genre, je pense pas que le film est une bonne leçon de vie, là. Tu devrais pas faire ce qu'Annette t'a dit. Et on peut aussi questionner, tu sais, c'est quoi la justification de Sparks? On l'a vu dans le film de Sparks, un peu, tu sais, il parle de Russell Mill qui a comme jamais eu, tu sais, il a comme jamais eu de relation importante dans sa vie, puis ça le faisait chier, il en parle dans le film, tu sais. Fait que c'est sûr que je sais pas si Russell Mill, un vieux monsieur de 75 ans avec une moustache de Hitler, est comme, se considère comme un incel, mais tu sais, il y a un peu de ça dedans. Ça, mais
un moi, incel qui est comme, hey, l'humoriste qui dit que les femmes sont un peu connes, trouve ça cool.
Mm-hmm. Mais je pense pas qu'il trouve ça cool. T'sais, je pense que l'humoriste qui dit que les femmes sont pas un con, c'est juste parce qu'il veut pas que ça soit un dude qui joue du clavier. Qui dit, je pense que c'est un peu dire hey, comme moi des fois je me sens comme ça. C'est parce que c'est des musiciens. C'est pas le même principe que comme quand quelqu'un fait du rap, du gangsta rap, on accepte qu'il va dire genre je tue du monde, je tue des. Je suis un pimp. Mais quand on sait qu'il c'est. C'est zéro ça. C'est un peu ça aussi, t'sais. C'est un peu ça le précédent. Il raconte une histoire, somme toute, assez classique, peut-être surutilisée, ça je vais vous donner. C'est pas l'affaire la plus originale, même quand tu vas chercher des vieilles tunes. Je pense pas que... T'sais, c'est assez évident là, comme ouais. Choix. Mais la façon que c'est mis en scène, puis les tunes aussi, c'est ça. T'sais. On a parlé de Sparks il y a quelques mois, mais... C'est pas nécessairement un band qui m'accroche tant que ça sur disque. Mais dans le film, j'étais comme, ben c'est ça que Sparks, ça devrait être. Ça devrait toujours être du monde qui se chante du Sparks. Oh, Annette, what are you doing, Annette? Tu sais, juste des... C'est vraiment comme ça que du Sparks, ça devrait être. Ça a un peu débarré dans mon esprit ce que c'est, ça devrait être. Tu sais, comment l'écouter un peu. Là. Mais j'en conviens que c'est compliqué, puis c'est pas... C'est niché.
Ouais.
C'est pas un film. Je pensais à ça quand on est sorti du film, tu sais. Mettons il y a 20 ans, quand j'étais au secondaire, le monde allait voir des films parce que quelqu'un de connu qui aime était dedans, tu sais. Puis des fois, il y avait une petite mauvaise surprise parce que c'était un film fucking whack, bizarre. Puis je fais juste penser à un kid de 14 ans qui est comme, hey, Kylo Ren est dans ce film-là. Puis il va voir Annette. Puis là, j'en sais quoi ça, Chris, tu sais. Comme. Je pense que ça va créer beaucoup de monde qui vont plus jamais aller au cinéma. Ça va créer aussi des réalisateurs, tu sais.
Mm.
Fait qu'il y a ça, ou réalisatrice.
Oui, absolument. Ah ben, fait que c'est ça. Fait, mais ultimement, j'aime plus ça que quand je l'ai vu.
Ouais.
Puis ça, c'est comme, c'est bon dans le fond. C'est tout le temps bien pour moi quand... je peux avoir un petit plus de ce que j'ai vu, au moins que je peux en avoir retiré quelque chose, puis j'ai l'impression de comme ah ben finalement c'est une belle expérience. Fait que on peut pas comme recommander Annette à tout le monde.
Non plus là, c'est encore là, c'est une semi-recommandation.
C'est une semi-recommandation, mais il y a aussi, tu sais, on n'a pas parlé dans ça, mais de la façon que c'est réalisé, tu sais, tout de même de la swing là-dedans, tu sais, c'est beau à voir.
Ouais.
C'est vraiment comme,
c'est très entraînant là, même quand c'est élevé, puis tu sais, t'es tout le temps comme... T'sais, moi, j'aime beaucoup ça, ce format-là, le format de l'opérette, justement, où presque tout le dialogue est chanté.
Mm-hmm.
Il me semble qu'il y a quelques affaires qui sont pas chantées dans le film. Mais moi, je trouve que ça a beaucoup de torque. Ça fait beaucoup avancer un film. Puis c'est compliqué, là, tu sais, c'est pas donné à tout le monde ou à tous les sujets ou whatever, mais puis il rend vraiment bien ça, là, Carax, là, dans le film, là, tu sais, la réalisation est super dynamique, puis c'est très... La mise en scène est super théâtrale.
Ouais, comme ça essaie pas de recréer une réalité, là.
Ouais, tu le vois que des fois, c'est vraiment un set, tu sais, c'est vraiment un plateau avec, tu vois, les spots en arrière, puis tout, tu sais, puis comment ça commence avec une toune... Ou est-ce que Léo Carax est dans le film, puis Sparks sont dans le film, puis tout le monde, c'est comme Let Us Begin, c'est ça la tune?
Oui.
Ouais, qui est vraiment sick, ça t'es comme yeah, yeah!
Le cinéma!
Ouais, c'est ça.
Les histoires! Emportez-moi!
Fait que tu sais, c'est ça. Je pense qu'effectivement, mettons, il y a matière à discussion, là c'est ça qu'on tenterait de faire, mais il
ouais.
y a matière à discussion sur, mettons, les thèmes, et si c'est absolument nécessaire de mettre en scène une murder ballad en 2021. T'sais. Mais après ça, la pensée que j'ai eue, moi, en regardant le film, c'était vraiment, tu sais, comme... Quand j'avais 13, 14, 15 ans, je commençais à regarder des films weird, là, tu sais, puis des films qui étaient bien cotés, puis qui étaient... Puis je les voyais, tu sais, en VHS, dans la cave, chez nous, à Arvida. Puis, tu sais, je pouvais pas comprendre. Tu sais, j'avais pas le buzz, j'avais pas, tu sais... C'est un film qui venait avec tellement trop de réputation que je m'assoyais et j'étais comme ok, je vais regarder un classique, je vais regarder une affaire qui est vraiment pété, tu sais. Puis des fois, j'étais comme je comprends pas, je catch pas, tu sais. Mais quand je regardais Annette, j'étais comme ah oh ouais, tu sais, dans 20 ans, il va y avoir des kids qui vont regarder ça et vont dire je catch pas, je comprends pas pourquoi tout le monde capote là-dessus, tu sais. Puis ça, il en faut. Tu sais, ça sera pas avec Black Widow que ça va arriver, ça.
Non, non, absolument pas.
Fait que, tu sais, je pense que c'est vraiment une proposition singulière et, encore là, tu sais, très personnelle et un peu mégalo, là, de leur part, là. Tu sais, c'est un peu comme, hey, tabarnak, les boys, là, les nerfs, là. Mais je vais toujours préférer ce genre d'art-là que de l'art mou, consensuel, pantouflard, là, tu sais. Ne serait-ce que juste parce qu'il faut continuer de faire ça, faut pas
on a ça se développe dans cet épisode-ci là du monde qui met la hache dans la patente là.
Ah, c'est, ouais, c'est
on est séduit par
moi,
ça là.
Moi tu sais que j'aime ça là, mettre la hache dans la patente, ça devrait toujours être la chose que tu fais là. Dès que quelqu'un aime quelque chose, tu devrais le crisser en feu.
Ouais, ben tu sais, moi aussi ça me c'est quelque chose qui me fascine, c'est comme pour revenir à Evangelion, c'est moi le fait que c'est resté un bonanza commercial puis qu'on continue à vendre des bebelles pour toujours puis que c'est devenu un que c'était plus un bug mais que c'est un feature que que là quand tu ouvres cette porte là il va mettre la hache dedans, il faut que tu sois prêt. je trouve ça incroyable, c'est le beurre puis l'argent du beurre en même temps là.
C'est ça, c'est plutôt rare, ça arrive de temps en temps mais c'est plutôt rare.
Fait que c'est pour ça que ça reste dans ma tête, ben comme admettre pas ça, mais c'est tout de même vraiment intéressant de cette façon
là mais ça vaut la peine. Là, il va être sur Prime le 20. Fait que ça c'est dans pas longtemps là, c'est par le temps que vendredi, dans le fond.
Oui, ben la semaine... Oui, vendredi, en fait.
Mais si vous pouvez aller le voir au cinéma, je pense, tu sais, ça vous intéresse moindrement, aller le voir au cinéma.
Oui.
Parce que c'est quelque chose d'autre, là, tu sais, que je peux pas imaginer. Je pense que de le regarder sur ma TV, je trouverais ça long sur un moyen temps, genre.
Parce ouais, que parce
c'est pas
que
aussi...
quelque chose que les caméras, pas qu'ils sautent partout, mais qu'ils swingent autant puis qu'ils t'amènent à travers des décors... C'est juste plus nice de le regarder sur un écran de cinéma.
Puis juste, là, le monde va dire, moi, j'ai un esti de gros écran, puis j'ai un surround sound, puis j'ai ci, puis j'ai ça. OK, fine, mais t'as pas acheté ça pour écouter Annette, là. T'as acheté ça pour écouter esti Tomorrow War. Fait que regarde Tomorrow War, crisse-moi patience.
T-Dubs, Tomorrow War. C'est toujours ça. Pas vu, curieux pareil de le
moi
voir.
Moi non plus, je vais le regarder éventuellement, mais je suis pas presque.
Ah ouais, c'est ça. C'est maintenant le temps du film de la semaine. Comme vous savez, quand on ne fait pas un épisode spécial, les voyeurs de vue, à chaque semaine, on parle d'un film qui est relié au film, qui est relié à l'épisode de la semaine précédente. La semaine passée, on a bien sûr parlé de Primal Fear avec Ed Norton et bien sûr Richard Gere. Et dans ce film, il y avait la merveilleuse Laura Linney. Et Laura Linney est bien sûr dans le film dont on va parler cette semaine. Le film de Peter Weir de 1998, The Truman Show, qui met en vedette Jim Carrey. The Truman Show, c'est un film qu'on n'a pratiquement pas besoin de décrire parce que il est une référence. Mm-hmm. Il est une affaire comme que tout le monde connaît, même si on l'a pas vu. Mm-hmm. C'est mais on va juste l'expliquer. Un bref, ça met en vedette Jim Carrey dans le rôle de Truman Burbank, qui est un homme dont la vie entière est une télé-réalité depuis sa naissance, ce qu'il ignore lui-même.
Exact, ce que tout le monde sur la Terre sait, sauf lui.
Ouais, et puis il est filmé essentiellement dans un genre de... sous un dôme qui est un énorme studio de télé qui recrée la ville. Une île de Sea Haven, qui est un genre de ville idéalisée des années 50, du Frank Capra shit, dans laquelle Truman vit une vie idéalisée. Et puis, il est constamment filmé, il ne sait pas, mais un moment donné, un matin, un spotlight tombe hors de nulle part. Puis, il n'en fait pas trop de cas. Il n'en fait pas trop de cas, mais...
Parce que, mettons, la radio est designée pour lui dire « Ah, un avion a perdu une lumière. » D'accord.
Le monde entier conspire autour de lui pour faire créer pour lui faire croire que le monde est normal. Et lui, il continue de penser ça, mais il y a certains... Il y a tout de même un désir de vouloir quitter Sea Haven, même si tout semble faire en sorte que ça ne va pas arriver. Il y a une femme... qu'il ne semble pas vraiment aimer, mais pas détester non plus, qui est joué par justement la merveilleuse Laura Linney. Et puis, il y a son ami, qui est joué par Noah Emmerich. À un moment donné, Truman commence à douter de la réalité
c'est
de son monde.
C'est quand il voit son père, parce que son père est mort quand il était jeune, noyé. Ce qui était en fait un truc de writer pour que Truman ait peur de l'eau puis qu'il essaie pas de se sauver de ses événements, mais l'acteur qui joue son père revient sur le set et là, Truman commence à questionner vraiment tout ce qui se passe.
Quelle est sa véritable vie et tout ça. Et de par questionner ça, il va éventuellement justement découvrir qui vit dans une réalité confectionnée. Moi, je crois que je me rappelle de l'avoir vu au cinéma à l'époque, mais je ne l'avais jamais réécouté depuis. Mais quelque part...
Tu l'aurais écouté tous les jours de ta vie.
Oui, j'ai écouté tous les jours de ma vie. Ou à chaque fois que j'ai écouté Occupation Double, ou à chaque fois que j'ai écouté Télé-réalité, parce que tout ça fait partie de nos vies, le divertissement qui est offert dans le monde du Truman Show n'est vraiment plus de la science-fiction. Et puis, c'est drôle comment ce film-là, il est comme un soft thriller, il est comme la soft science-fiction, dramédie, il est comme plein d'affaires en même temps. Mais, moi, l'affaire, premièrement, j'ai trouvé ça comme très, très bon. Vraiment, en fait, j'ai trouvé ça extrêmement confiant de la façon que ça l'explique pratiquement. En 98, il n'y avait pas tant que ça de télé-réalité. Ça l'explique pratiquement pas sa prémisse. Jusqu'à vraiment plus tard dans le film, mais on dirait que le film sait que tout le monde va savoir c'est quoi la prémisse du trailer.
Mais c'est aussi, tu sais, genre pour embarquer là-dessus un peu, c'est aussi comme une prémisse que si tu y penses un peu, ça se tient pas vraiment. Mais jamais le film te laisse douter de ça. Là. Il est comme bon, là, regarde, c'est de même. Puis là, t'es comme, me semble ça prendrait plus que 30 ans avant qu'ils se rendent compte de ça. Ça n'a jamais chié avant. Il n'a jamais eu quoi que ce soit. Mais le film est tellement justement confiant. C'est tellement genre 3 points from mid-court. C'est juste quand tu l'as vu 10 fois comme moi que t'es comme ah ouais, hein, c'est. Ça fait pas full de sens, mais il faut. Ça peut pas faire du sens puis être aussi touchant et relevant. Là, ça a besoin de pas faire de sens pour ça.
Ouais, moi, c'est ce que. Il y a vraiment plein d'affaires à discuter face au show Truman, mais moi, l'affaire, comment que ça résonne dans notre pop culture, c'est l'affaire que faudrait trouver comment bien interroger ou en parler au voyeur de vue, mais c'est comment que il y a beaucoup de monde wacko sur Internet qui parle de complots et de conflits.
Oui.
Et ils utilisent beaucoup souvent le cinéma de façon pas trop intelligente pour expliquer comme ce complot-là et comme ce film-là.
Oui, comme Alexis Cossette-Trudel, par exemple.
Oui, oui.
Qui va aller chercher des scènes de films et dire « Regarde, c'est ça qui se passe. » C'est juste comme la scène de rave dans La Matrice.
Ouais, plutôt comme...
C'est comme, mais c'est un film, ça, dude. C'est pas, tu sais...
Ben exactement, mais le show Truman, c'est comme un homme qui dit comme toute la réalité et conspire contre moi et m'empêche de voir le vrai monde. Tu sais, c'est un
thriller. Il a raison.
Puis il a super raison.
Ouais, c'est ça.
Et c'est aussi un thriller de conspiration, là. Mm-hmm. Et voir ça maintenant, je suis comme, oh man, ça flatte des instincts malsains tellement dans le sens du poil que à cette heure, le leg qu'on a en ce moment de Joe Truman, c'est pas comme, et je te dis, hein, la télé-réalité, c'est plus cet aspect-là.
La réalité n'est pas réalité.
Réalité n'est pas réalité, tout est contre moi.
Mais tu sais, dans un sens, on est tous un peu Truman dans une certaine mesure parce que on recherche des choses qui nous dit que ce qu'on fait, c'est correct, puis que tout va être correct. Comme en ce moment, cette semaine, ça n'a pas vraiment l'air de ça, mais tu sais, comme lui, il allume la radio, puis là, quelqu'un dit « Ah, tout est correct », puis il fait, tu sais, toute sa vie, ça a été correct. Fait que là, c'est vrai maintenant, quand tu parles de ça, que c'est un peu comme Truman est sur le bord d'être un doute qui est comme la soi-disant plandémie, tu sais, il est pas loin de ça.
Le Great Reset.
C'est ça, mais en même temps, tu peux pas te sentir mal pour lui parce qu'il a été exploité à fond. Puis le film est un peu comme la prémisse où Christophe, le personnage joué par Ed Harris, qui est le genre de showrunner, lui, son argument, c'est un peu comme comment tu peux être exploité si tu sais pas c'est quoi de l'exploitation, tu sais. Ce qui est vraiment fucked up. C'est extrêmement fucked up. Tu sais, c'est ça, une affaire que, en l'écoutant cette fois, tu sais, je l'avais vu beaucoup, tu sais, mettons, à tous les deux ans, depuis que c'est sorti jusqu'à 2010, là, mettons. Puis, que j'étais comme, man, c'est fucking triste, là, c'est fucked up, là, qu'est-ce que vous faites à Truman, puis vous essayez d'y faire dire que parce qu'il connaît rien d'autre, c'est correct. T'sais, pis c'est comme fuck, man, c'est crissement. Genre, il peut bien, tu sais, il y a une scène où il capote, pis il fait comme un peu menacer sa femme avec un genre de pelle patate.
Ouais, ouais.
Pis, tu sais, dans n'importe quel film, tu serais comme, là, il est toxique, il est fou. Mais je suis comme, imagine que tu te rends compte que littéralement tout ce qui existe autour de toi n'est pas vrai. C'est sûr, tu vas vouloir percer quelqu'un avec un pelle patate, esti. Genre, c'est la chose la plus relatable du monde.
Ouais.
Fait que, genre, c'est comme. Ouais.
Oui, cet aspect-là de victimisation, moi, une affaire qui. Ça fait une couple d'années que je veux réécouter. Ben, en fait, j'en ai parlé la semaine passée, que je veux réécouter The Truman Show. Parce que. À cause de Westworld, qui est un show que j'aime beaucoup, mais que, disons, que je peux pas entièrement cautionner vu. Moi, je suis sur le train de Westworld jusqu'à la fin, là, mais mettons que le pilote, par exemple, ça, je dirais comme, voici un 78 minutes de Westworld, écoutez ça, c'est vraiment bon, que je suis
fasciné. Environ aussi long que le film original, très court.
Qui est très court, oui. Mais tu sais, je trippe sur l'idée science-fictionnelle, dans le fond, d'un monde sous un dôme qui est contrôlé, tu sais.
Comme Under the Dome comme de Stephen King.
Oui, avec ça, regarde, ça, c'est vraiment mon préféré parce qu'il dit dans le titre, en plus. Quand il dit dans le titre, en plus, là, je suis vraiment gros. Ou, dans le fond, une autre affaire de Michael Crichton, Jurassic Park. Ouais, tu sais, qui est ce monde-là?
Des univers contrôlés, des univers 100% artificiels contrôlés.
Ouais, c'est ça. Puis ça, je trouve que c'est... C'est une idée qui est juste le fun pour la fiction. Puis, cependant, une affaire que je m'attendais pas, parce que aussi le lien de ça, c'est que Ed Harris joue dans Westworld, c'est que dans... c'est là que je suis comme, ah, ils ont vraiment, je pense, pensé au Truman Show, c'est que la télésérie de Westworld, c'est des robots qui deviennent conscients et qui sont comme, ah ouais, on est ici pour se faire fourré, tué, violé par des touristes.
Ouais.
Mais Anthony Hopkins, il est comme, ben, ils le savent pas. Fait que, puis on les reset à la fin de la journée. Puis ça, c'est extrêmement cruel. Puis là, de voir tout ça dans Show Truman, ça m'a fait encore plus être comme... Sérieux, c'est pour ça que ça m'a vraiment fasciné, c'est à quel point que l'aspect comme weirdo conspirationnel, l'aspect de commentaire de télé-réalité qu'on on est à la recherche de vraies affaires. Tu sais que le Andrew Niccol qui a aussi fait Gattaca.
Andrew Niccol qui a essentiellement juste écrit des affaires de science-fiction un peu spéculatives de même.
Spéculatives, sérieuses.
Ouais, ouais.
Il a fait vraiment pas colorées.
Simone aussi, il a fait About Time, il a fait. Il y a sûrement une couple d'autres. Là, mais
il
ouais,
doit en avoir d'autres qui s'en viennent aussi.
Mais
là.
C'est surtout ça son.
Son thing.
Son shtick.
Ouais.
Puis ça a l'air clairement d'une affaire qui le concerne, qui le trouble.
Ouais, ouais. Puis, tu sais, toutes ces affaires-là, il y a tellement d'affaires dans Show Truman.
Ouais, ouais.
J'ai vraiment été surpris par tout ça. Puis, tu sais, l'autre couche. Tu sais, Truman vit dans un. Ah ben non, il y a du monde de couleur, mais il vit dans un genre d'Amérique républicaine idéalisée. En plus, c'est un
moment donné, gens de couleur, c'est genre le laitier, puis genre...
Ben, ses voisins, mais ils font juste dire bonjour,
ah oui,
ils parlent jamais.
Voisins, ouais,
ils parlent jamais, par exemple.
Ben, c'est toujours la même affaire. Là, ouais.
C'est ça, fait que, tu sais, il y a plusieurs couches là-dedans, puis je trouve ça vraiment comme juste une bonne idée de science-fiction riche. Tu sais, justement, on dirait qu'Andrew Niccol, de sa carrière, on dirait pas que... Je pense que justement, In Time, avec y a Justin Timberlake là-dedans, tu sais, je pense que c'est lui qui l'a réalisé. Il avait des aspirations de réalisateur, puis que...
Ben, il a réalisé The Host, qui est comme un genre d'affaire de spin-off de Twilight. Là.
Ben, c'est un truc de Stephanie Meyer, ouais.
Il a réalisé aussi Good Kill, qui est une affaire de pilote de drone avec Ethan Hawke.
Mm-hmm.
Tu sais, je veux dire, là, il est rendu... Mais ça, c'est encore toutes des affaires un peu... Bon, The Host, c'est de l'argent, là, c'est payé.
Ouais.
Mais tu sais, je veux dire, il a jamais vraiment... À part Gattaca et Truman Show, c'est pas mal c'est le top, là, tu sais, le peak de ce qu'il a pu faire. Mais en même temps, si j'avais écrit ces deux films-là, c'est sûr que ça serait rough après ça de.
Ouais,
de recapturer.
Je suis surpris qu'il fasse pas un show à TV quelque part, là, que Netflix, il ait pas pitché une mini-série ou un avant dans le même. Ça va sans doute arriver. Là.
Ouais.
Mais c'est ça, j'ai trouvé ça qu'en fait, comme l'affaire qui me surprend de ce film-là, c'est à quel point ça prend du temps que. T'sais, t'as juste Christophe au début, t'as juste Ed Harris, pis t'as Laura Linney, qui sont comme, ah ben tu sais, c'est un show, blablabla. Pis sinon, c'est 1h45, pis je pense que c'est la première heure que là, c'est comme, le show Truman, c'est ça, pis t'as 5000 caméras, pis XYZ, pis toute cette affaire-là. T'sais, ils prennent tellement leur temps avant d'expliquer toute la patente, pis voir comment ça fonctionne, ces affaires-là. J'ai vraiment été surpris, pis surtout à quel point. Puis ça, je pense, c'est surtout le avoir Jim Carrey. Tu sais, tu parles de Jim Carrey qui sort son couteau à patate puis qui il est comme, qu'est-ce que tu fais? Justement, Ethan Hawke fait ça, là, c'est épeurant.
Ouais.
C'est épeurant puis c'est inquiétant. Là. Même, il y a full de scènes comme de lui qui pense que la vieille veste de sa dulcinée puis qui pense encore à elle, là. Encore là, si c'est Ethan Hawke ou quelqu'un d'autre, là, ça se passe pas.
Bon.
Ou Kiefer Sutherland, là, t'es comme. Moi, je prends mon téléphone et j'appelle la police pour leur parler de ce qui se passe dans ma TV. Là. J'ai peur pour cette madame-là.
Ah, ouais. Mais c'est ça, la vulnérabilité de Jim Carrey, mais aussi comme son image. Tu sais, je trouve que c'est un film qui a vraiment bien vieilli au niveau de ce que ça dit sur l'image de Jim Carrey et ce qu'on sait qu'il est devenu après. Tu sais. Parce que c'est considéré le premier rôle dramatique de Jim Carrey. Je trouve que c'est pas tant dramatique. Oui, le film est dramatique, mais sa performance est assez Jim Carrey. C'est pas Uncut Gems.
Ouais.
Ça va arriver plus tard avec le film de la semaine prochaine, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Vous l'aurez entendu ici.
Oh yeah!
C'est pas une performance dramatique absolument différente de ce qu'on... Mais tu sais, c'est un peu... T'sais, j'ai l'impression que Jim Carrey relate en esti avec ça, là, avec l'idée de comme tout le monde me regarde tout le temps, je peux rien faire, j'ai pas le droit d'être ma propre personne. Je suis pogné dans une affaire, dans une. Il y a des gens qui font de l'argent avec mon existence, puis là, il est trop tard. Puis, on a vu que c'était ça, puis là, Jim Carrey il est rendu assez fucké maintenant.
Ouais.
T'es assez toasté. Puis c'est pas pour rien que le film après ça qu'il a fait, c'était Man on the Moon, tu sais. Puis il y a le documentaire sur Netflix où ce que tu sais, il est essentiellement in character là, en tant qu'Andy Kaufman. Puis il crie après tout le monde, puis c'est un trou de cul, puis tout le monde l'haït. C'est parce que je pense qu'il était vraiment à bout. Puis tu le vois dans le show Truman. T'sais, c'est vraiment dans Truman Show. Pas tellement un rôle de composition, je te dirais. T'sais. Mm-hmm. Il a l'air vraiment d'être en train d'extérioriser une affaire. Parce que tu sais, je pense que c'est difficile d'expliquer maintenant, là, pour peut-être les gens qui nous écoutent qui sont plus jeunes, là, à quel point Jim Carrey était connu là, en 1998. Là.
Ouais.
Il y a personne qui est connu comme ça en ce moment. Puis tout le monde a l'Internet, tout ça. Les Kardashians, peut-être. Là,
ouais, c'est... ben,
ça avait aucun asti de rapport.
C'était là. Comme... Même Sandler a popé plus tôt, fait que... À cause de SNL, peut-être. Ouais. Fait qu'il était comme une nouvelle star de...
Mais ça d'humour. Faisait longtemps qu'il faisait ça, là. Tu sais, je veux dire... Tu sais, Jim Carrey a commencé tôt. J'ai trouvé, dans l'Est des journaux, si vous allez voir, 1980... Jim Carrey a fait une semaine ici au ce qui est maintenant le Comedy Nest, ça s'appelait quelque chose d'autre dans ce temps-là. Puis c'était Jim Carrey en 1980, il avait 19 ans, genre, mm-hmm. Tu sais. Fait qu'il a travaillé longtemps en humour, il a fait plein de films poches qui ont après ça sont ressortis avec sa face dessus, même s'il est dedans pendant 5 minutes, tu sais. Mais c'est arrivé, tu sais, parce qu'il est dans, il était dans In Living Color, dans le fond.
Ouais. Il était le blanc dans In Living Color.
C'est ça. In Living Color, qui est un show des frères Wayans. Mm-hmm. Un genre de SNL noir, dans le fond. Mm-hmm. Puis le blanc, c'était Jim Carrey, tu sais. Puis une fois que ça a popé, tu sais, Ace Ventura, Le Masque, puis il y en a un autre. Ah, Dumb and Dumber, c'est toute la même année.
Oui.
Ça n'a pas de sens, ça. Ça n'a pas de sens, ce type d'affaire-là. Là. Imagine. Imagine comment ta vie après ça est fucked up, là, d'avoir été ce dude-là.
Mais tu sais, moi, je me rappelle, j'étais à l'âge, puis il était comme ma vedette préférée. Puis je me rappelle, j'enregistrais des... J'écoutais, ben regarde, un adolescent d'Abitibi qui écoute Entertainment Tonight à chaque soir, ça va bien en crise, puis qui a une cassette pour enregistrer si il y a quelque chose d'intéressant à Entertainment Tonight, comme soit un bout de trailer ou un trailer de film, ou une entrevue avec quelqu'un qui aime comme Jim Carrey. Puis tu sais, j'avais une cassette comme, tu sais, il passe à Barbara Walters. T'sais, je l'écoute, je l'enregistre, je l'écoutais. Puis là, toutes ces affaires-là, là, j'étais fasciné par lui. J'ai fait des exposés orales à l'école secondaire sur Jim Carrey. Là. C'était... Parce que aussi à l'époque, autant qu'il était populaire, avoir de l'information sur ce monde-là était plus difficile. Fait que là, chaque morceau que tu avais, était comme ça. Puis en même temps, c'est pour ça que ce qui est présenté dans le Truman Show semblait... de la folie Coco Banane, de pouvoir voir n'importe quand cette personne-là. Là.
Mais c'est ça. Puis c'est là que tu réalises un peu que Truman Show peut pas vraiment exister sans Jim Carrey. T'sais, on parle de beaucoup de films où, tu sais, mettons Primal Fear la semaine passée, ça peut être deux autres acteurs. Non, ça.
Ouais.
Mais je peux pas imaginer un film... Je peux pas imaginer Truman Show sans... tout ce que Jim Carrey apporte à ce rôle-là puis à ce film-là. Puis, tu sais, puis le contexte à l'extérieur du film lui-même. Là, tu sais.
Parce que avec Truman Show, faut que tu... L'affaire la plus difficile... Ben, il y a plein d'affaires difficiles, mais je trouve l'affaire la plus difficile, c'est qu'il faudrait qu'il soit un acteur qui soit comme... Ben, voyons pourquoi qu'il se réveille pas.
Ouais.
Puis ça... Tu veux comme que Truman se réveille, mais en même temps, tu veux qu'il sorte de sa réalité, mais s'il décidait de rien faire, tu serais comme, ah, ça serait vraiment rough, sinon, il est peut-être mieux à rester là.
Ouais, mais aussi, l'affaire, c'est que, tu sais, Jim Carrey est fondamentalement magnétique. Tu le vois, tu veux le regarder, tu sais. Mm-hmm. Il a fait des films poches, là, tu sais, je veux dire, c'est pas... Personne n'est à l'abri de faire un film poche, mais tu sais, quand Jim Carrey est à l'écran... Il y a une qualité qui arrive pas souvent, là, c'est qu'il peut être triste. Il a fait des films, là, The Majestic, qui est quelques années après Truman Show, qui était son autre film dramatique. C'est de l'asti de merde. C'est tellement mauvais. Là.
Joe Dante, ça, c'est ça?
Non, c'est Frank Darabont.
Ah, ok, ouais.
Puis, tu sais, c'est vraiment mauvais, mais tu le regardes, là, puis c'est nul, c'est inutile. Mais t'es comment, mais Chris, j'aime ça regarder Jim Carrey. Il est dans un film qui s'appelle The Bad Batch. de Anna Lily Armanipour.
Mm-hmm.
Qui est un film genre post-apocalyptique avec, je pense, Suki Waterhouse, genre, qui elle a une jambe, puis elle se promène dans le désert, tout ça. Puis Jim Carrey joue, il a un rôle de soutien où il a une grosse barbe, puis c'est un genre de hobo ermite du désert. Hein. Puis le film, je trouve, il est pas bon. C'est un film où il y a dedans aussi Keanu Reeves et Jason Momoa, fait que c'est clairement un film... Bon, en tout cas, bref, c'est un film un peu qui est un peu sur le stunt casting, là, tu sais.
Mm-hmm.
Mais la scène ou les deux, trois scènes avec Jim Carrey, qui fait un rôle complètement mieux avec une grosse barbe, t'es comme, Chris, c'est qui lui? Ah, c'est Jim Carrey, tu sais. Je veux le regarder, il est intéressant, puis on va en parler la semaine prochaine, je pense. Hein. Parce que dans Eternal Sunshine, c'est comme, personne n'a jamais eu l'air aussi triste et piteux que Jim Carrey dans ce film-là. T'as jamais autant voulu... Tu sais, prendre un personnage dans tes bras que Jim Carrey.
Écoute, quand on voyait ces grimaces-là dans Ace Ventura, on savait pas que ces grimaces-là pouvaient faire une baboune qui allait tout nous briser le cœur. On le savait pas.
Puis tu sais, je pense que justement, le clown triste, à un moment donné, ça fait son temps. T'sais, on peut pas. On vient de parler d'Annette. Le clown triste, c'est le clown triste, c'est ce que c'est. Mais je pense qu'avec Jim Carrey, c'est que tu sais, il y a tellement pas de. On voit pas la démarcation entre les deux. Là, tu sais.
Ouais.
Que ça devient super... Je sais pas, c'est très... Tu sais, je trouve que Truman Show, c'est très touchant.
Ouais.
Puis je pense que pour moi, maintenant, en tout cas en 2021, c'est touchant, pas parce que c'est Truman, mais parce que c'est Jim Carrey, tu sais. Puis là, t'es comme, hey, aïe, aïe, tu sais, comme...
Ouais,
comme... quelque chose d'autre qui se passe.
Je... Ben, on dirait que tout de même, plus tard, maintenant, là, il y a peut-être une ou deux présences. Regarde, Jim, il y a eu des présences bizarres sur les médias sociaux puis sur YouTube.
Ouais,
tout ça,
avec
là,
ses
il...
peintures puis ses affaires weird. Là.
Ben, ses peintures puis ses sculptures, ça, il les a toujours eues. Je me rappelle les avoir vues à Barbara Walters. Mais, tu sais, un moment donné, il y avait une vidéo YouTube qui faisait juste parler d'Emma Stone. Puis là, c'était comme... Mm. Comme un type étrange, mais
ouais.
On dirait que même s'il y a ces affaires-là, puis qu'il communique avec ça ou qu'il parle de ça, on dirait qu'il s'est peut-être sauvé un peu. Pas autant comme Truman, parce que justement, Truman aurait idéalement réussi à s'en sauver.
Mm.
Mais en tout cas, c'est.
Ouais, tu sais, à un moment donné, ça devient du patinage, là, tu sais, de parler de sa vie personnelle, mm-hmm. c'est pas tant relevant, mais je pense juste que, tu sais, c'est vraiment l'idée pour moi de, tu sais, 4 ans après cette année-là de 1994, puisque tout est arrivé en même temps, je peux imaginer pourquoi il serait comme, je veux m'en aller, je veux plus être ici, je veux me cacher, je veux, tu sais. Puis pourquoi est-ce que ça y parle comme film, tu sais. Nonobstant toutes les affaires que le film dit sur la société, puis qu'est-ce qu'on veut voir à la télévision, puis tout ça, puis qu'est-ce qu'on considère comme une vie idéalisée. Parce que moi, je trouve que ça a l'air calissement plate, Sea Haven.
Ouais.
Je voudrais jamais vivre là.
Non, Sea Haven, tu restes là une journée en allant ailleurs.
Ouais,
sur le chemin d'aller ailleurs.
Tu manges un fish and chip sur le bord de l'eau, tu crisses ton can. Là,
ouais.
Tu sais, fait. Mais c'est ça, tu sais. Une chose qui m'a aussi sauté ou qui a été évidente, c'est toutes les jokes de placement de produits qui sont dans le film. Fait que, mm-hmm. Parce que vu que le show de Truman Show roule sans cesse, il peut pas avoir de pub. Fait que mm-hmm. les pubs sont intégrés dans la vie de Truman. C'est souvent Laurel Lenny qui se tourne et dit « Hey, veux-tu voir le chocolat chaud? » Ça, genre, la satire de ça est rendue un peu weak. Là.
Ouais.
À cette heure que genre je regarde de quoi, puis tu sais, je regarde un YouTube de Jim Carrey, puis ça arrête pour me dire « Hey, achète-toi de la mayonnaise! » Tu sais, fait que ça l'a un petit peu moins bien vieilli, ça semble un petit peu crowbar.
Mm-hmm.
Mais en même temps, je pense pas que Truman Show, sa valeur est comme satire. Ça a jamais été ça tant que ça. C'est plus comme un genre... C'est comme un genre de... reality check... un peu comme rushant, tu le regardes, tu fais « aïe, 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 qu'est-ce qui se passe? »
Ouais, c'était peut-être plus satirique, mettons, dans les 5 premières années qu'il est sorti, mm-hmm. mais à cette heure, sa valeur est ailleurs. Mm-hmm. La boulette de Truman Show, elle peut être tournée plusieurs fois.
Exact. Puis tu sais, c'est ça, c'est intéressant, parce qu'on parle beaucoup maintenant d'un film, si un film a bien vieilli ou a mal vieilli, ou... Puis avec Truman Show, c'est comme, il a fermenté.
Ouais.
Tu sais, c'est devenu quelque chose d'autre. Avant, c'était du chou, là, c'est du kimchi, tu sais.
Mm-hmm.
c'est plus... La question, c'est pas « ça a-tu bien vieilli? » C'est comme « qu'est-ce que ça veut dire maintenant? »
Mm-hmm.
Puis ça, c'est aussi inestimable comme affaire qu'un film peut avoir. Parce que la majorité des films ne fermentent pas. T'sais.
Non, ça l'arrive pas. Là. C'est sérieux, comme Truman Show, je le mets à côté de Robocop, mettons, de cette façon-là.
C'est un bon exemple.
Qui ont deux films
qui ont fermenté.
Qui ont fermenté en motadine. Je dirais, une affaire en l'écoutant, parce que c'est Laura Linney qui nous a amené là.
Mm-hmm.
J'imagine que peut-être dans le script ou peut-être dans des deleted scenes, ça existe de savoir. Peut-être qu'on voit, peut-être elle qui joue une actrice, qui joue sa femme,
mm-hmm.
on la voit un petit peu dans un talking head au début qui est comme « Ah, tu sais, moi, je fais partie du show, puis blablabla. » Je suis curieux de savoir, je serais curieux de savoir c'est quoi son personnage. Comme cette actrice-là, qu'est-ce qu'elle pense d'être dans la vie de Truman mm-hmm. Show puis d'avoir des relations sexuelles avec, même si on le voit pas, puis toutes ces affaires-là, tu sais. Je suis tout de même curieux de qu'est-ce qu'il y aurait, mais j'ai l'impression que, maintenant qu'on parle du film qui fermente, des affaires comme ça, s'il y a ça dans le film, c'est peut-être un aspect qui aurait peut-être pas bien fermenté avec le reste.
Ouais, ça se peut.
Probablement que c'est une affaire que là, tu n'aurais pas pu avoir le recul, tu sais, à cette heure... qu'avec les médias sociaux, que les gens qui sont devenus comme des... On est toutes nos propres petites PME, ces médias sociaux, puis on donne des morceaux de nos vies pour créer du contenu, des affaires intéressantes. Là, on aurait une loupe différente là-dessus.
Ouais. Ben, tu sais, ça, c'est l'aspect... C'est un aspect qui n'est pas tant exploré, mais tu sais, il suggère un peu son ami Noah Emmerich.
Mm-hmm.
Tu sais, il raconte quelquefois, tu sais, quand t'es parti en vacances, tout ça... Tu sais, quand t'étais allé... Parce qu'il disait à un moment donné, t'étais livreur de quelque chose, tu sais, il était trucker, fait qu'il était pas là.
Mm-hmm.
Mais tu sais, évidemment, c'est juste qu'il est arrivé quelque chose dans la vie de cet acteur-là qui pouvait plus jouer dans le Truman Show, tu sais.
Ouais.
Puis, tu sais, il y a tout ça, là. C'est sûr que dans le film, comment c'est là, déjà, la logique de la patente est assez chancelante, donc on peut pas trop embarquer là-dedans. Mais ça serait pour vrai intéressant, tu sais. C'est ça que je pense aussi, là. Je pense en ça en le regardant. Tu sais, je serais correct avec un Truman Show, un remake à TV.
Mm-hmm.
Juste parce que j'aimerais ça voir comment ça fonctionne. Tu sais, l'envers du décor, plus que qu'est-ce qui est révélé dans le film. Tu sais, puis c'est sûr, ça demanderait peut-être une écriture beaucoup plus assidue ou whatever, là, tu sais, beaucoup plus Coco Bavane, là, je pense. Mm-hmm. Mais ces aspects-là, puis ça, c'est bien, ils sont suggérés. Tu sais, ils sont pas comme. Parce que j'ai l'impression, comme je disais au début, tu sais, plus tu expliques le Truman Show, moins c'est convaincant. Fait que, tu sais, il faut laisser beaucoup d'affaires planer, du doute planer, puis pas trop embarquer dans certaines affaires. Mais tu sais, quand même, c'est ça, c'est vraiment... C'est très riche comme film, il y a beaucoup d'affaires dedans. Tu sais, que, même l'ayant vu, là, probablement quand je l'écoute cette semaine, ça va être la sixième fois que je le voyais. Mm-hmm. Puis j'étais comme, ah ouais, tu sais, ça, c'est vraiment bien pensé, ce bout-là.
Puis c'est une affaire qui est nice aussi, c'est que, tu sais, tu vois des auditeurs, ça me faisait penser à Louis XIX.
Oui, effectivement.
Tu sais, il y a tout, tu sais, en tout cas,
c'est des auditeurs, vases. C'est Sully dans Brooklyn Nine-Nine.
Oui. Tu sais, c'est Harry Shearer qui est le Chris Hardwick de son époque, parce qu'il fait un Talking Dead, mais il fait un post-show.
Avec sa voix de Ken Brockman, en plus.
Oui. C'est les... Je pense qu'il y a beaucoup de comédiens des Simpsons qui ont comme... ils ont eu une couple de jobs jadis à cause qu'ils pouvaient juste faire leur morceau des Simpsons, mais en live action. Je respecte ça. Mais bref...
Ah, on n'a pas parlé de Paul Giamatti, qui est un peu dans le film aussi.
Oui, le bon Paul qui a toujours mon respect.
Ça, c'est le plus tôt que je me souviens d'avoir vu Paul Giamatti puis de m'en rappeler. Je sais que l'année d'avant, il est dans Private Parts.
Oui, qui joue Pig Face ou Hog Pig.
Pig Vomit.
Pig Vomit, ouais, c'est ça. Mais qui joue rien de pas trop véreux. C'était comme habitué que Paul Giamatti va comme un peu jouer
ouais,
ça
va être lui le crosseur. Mais là, c'est lui qui a une conscience. C'est lui qui dit « Je veux pas faire ce que tu me demandes, Christophe. »
Je sais pas s'il sent, mais Ed Harris a une genre d'énergie. Surtout que les lunettes, c'est très Steve Jobs, tout ça. Là. Je sais pas si c'est dans ses passés à l'époque. Aussi, il joue un dieu cruel, mais quand il parle à Truman, il est extrêmement chaleureux, mais il est extrêmement chaleureux sachant qu'il y a une posture de dieu devant lui. Fait que c'est pas vrai de la vraie chaleur humaine.
C'est un méchant qui sait pas qu'il est un méchant.
Ouais.
Tu sais. le film est structuré autour de lui comme étant un méchant ou t'sais, un obstacle là, vers le bonheur, whatever. Mais lui, il pense aucunement ça. Puis c'est pas une affaire de, tu sais, comme un méchant James Bond qui est comme, non, moi, ce que je veux, c'est le bien de la société. Lui, il pense pas à ça.
Non.
Il s'en tabarnak. Tu sais, Truman, c'est tellement... Tu sais, c'est ça l'affaire aussi. C'est Truman, c'est un pion dans sa propre histoire. Tu sais, il y a tellement d'affaires qui doivent exister autour de Truman pour que lui existe, qu'à la base, il est un pion dans sa propre histoire. Puis ça, c'est vraiment déprimant.
Ouais, ouais. Non, c'est extrêmement déprimant. C'est ça, j'aurais... Plus j'en parle, je vois vraiment comme les parallèles avec Westworld, où c'est tous les robots qui deviennent conscients, puis qui comme, quoi? On est ça, puis on sert à ça, puis Chris, ouais, que ouais. C'est pas cool. Puis je réalise que le show aurait... Parce qu'il est pas prêt de finir, mais qu'il devrait... Westworld devrait finir comme The Truman Show.
Ouais.
Avec les robots qui sauvent du parc, puis on sait pas qu'est-ce qui arrive par la suite.
C'est ça.
Mais bref, c'est mon cet épisode-là, c'est mon fanfic de Westworld. C'est le plus que je vais en faire. Moi, je l'ai loué sur iTunes parce qu'il semble pas être vraiment disponible sur une plateforme gratuite.
Je l'ai loué sur Prime également, mais il l'a déjà été parce que je me souviens de l'avoir vu. Je pense sur Netflix.
Mais comment tu penses que tout ce qu'on a parler de fermentation, regarde, c'est une bonne réécoute.
Ouais,
ça
ouais.
Se réécoute bien. C'est vraiment bon. C'est vrai, c'est confiant. C'est de la façon aussi, comme tu dis, on en a parlé, que Jim Carrey empêche ça d'être trop élevé, même si, comme tu as dit, c'est extrêmement déprimant ce qui arrive à Truman. C'est une affaire extrêmement élevé qui reste léger grâce à Jim Carrey.
Ben, c'est parce que je pense littéralement, si c'est pas Jim Carrey, t'es comme, écoute, man, je te comprends si tu t'en vas sur le quai puis tu te tires une balle dans la tête. Si c'était n'importe qui d'autre,
ouais.
Ça serait complètement... C'est comme, ah, ok, écoute, t'sais, ta vie en entier est un mensonge. Tu n'existes... T'sais, tu existes, mais tu n'existes pas.
Mm-hmm.
Fait que genre, n'importe qui d'autre, ou tu sais, il y a très peu d'acteurs qui peuvent... T'as dit non, Truman, bats-toi, parce que la majorité de ça serait comme, écoute, c'est vraiment, c'est de la style marde de Godspeed, je sais pas quoi dire.
On va terminer là-dessus, Truman Show, grosse recommandation de voyeur de vue.
Oui.
Comme t'as mentionné la semaine prochaine, on va, Jim Carrey, notre pont vers Michel Gondry.
Oui.
Car on va voir Eternal Sunshine of the Spotless Mind, qui est un film qui... aussi est vraiment bon. Et comme Truman Show, je n'ai vu, je pense que originalement, peut-être je l'ai vu deux fois, genre quand il est sorti en salle, puis je l'ai vu en sortie DVD, puis depuis je ne l'ai pas revu. Ma blonde là en DVD a dit comme, c'est un film que j'adore, mais je peux pas le réécouter parce que ça me rend trop triste.
Ouais.
Fait que à cause de ça, tu sais, c'est une des raisons pourquoi je l'ai pas écouté, mais j'ai vraiment hâte de le revoir parce que ça fait vraiment longtemps.
Moi,
puis...
c'est un film que j'ai regardé beaucoup quand je comprenais exactement ce que ça disait, puis j'avais jamais eu de blonde dans ma sainte vie. Là. J'étais comme, ah oh, ouais, ouais, ça, c'est moi, I'm that, I'm baby. Mais tu sais, comme, c'est très, c'est un classique de Sad Boy. Là.
Ouais.
C'est genre le classique de Sad Boy. Fait que ça fait longtemps que je l'ai pas vu. J'ai dû le voir peut-être une fois dans les 10 dernières années. Là. Fait que j'espère que ça va pas être une affaire vraiment triste, fucked up, là, genre quand je fais être genre, ah, moi, je relatais à ce personnage-là, mais finalement, c'est une merde, là, genre. J'espère que ça sera pas ça.
Je sais pas, mais la seule façon qu'on va le découvrir, c'est de l'écouter et d'en parler la semaine prochaine. En attendant, yes. Alex, les gens, ils te trouvent où sur Internet cette semaine?
Sur courtmontreal.com, en ce moment, c'est Fantasia, donc vous pouvez aller lire des reviews de Fantasia à quelques jours d'intervalle. Sinon, sur Twitter, Alex Rose, avec deux petites barres à la fin. Why Does It Exist sur Instagram et Letterboxd. Et là, je ne suis pas certain si ça va sortir cette semaine, mais bientôt, je vais être au podcast du magazine 24 Images, animé par Alexandre Fontaine-Rousseau, qui va éventuellement venir au show, qui est un BDiste et un critique de cinéma et tout ça, animateur de radio.
Et bientôt invité au meilleur podcast de cinéma du Canada, la province.
Invité au voyeur de vue. Puis je sais pas si ça va être sorti cette semaine, mais en tout cas là, bientôt là, si vous... abonnez-vous tout de suite là.
Mm-hmm.
L'important ça sera d'être abonné dans votre podcatcher de choix.
Ouais, donnez le bump des voyeurs de vue
C'est ça. That voyeur bump à ce magazine qui existe depuis 1962 ou whatever. Là.
C'est le temps, là, qu'on... Voyeur de vue nation, c'est le temps qu'on donne c'est le
rise
bump.
Rise up. Rise up.
Rise up. Pour ma part, c'est Athénée Belzul sur toutes mes plateformes, sur Instagram, sur Twitter, sur Letterboxd. Et oui, c'est ça. Il y a un podcast qui s'appelle Trois Bières qui est disponible chaque semaine. Si vous êtes dans la région de Québec, vous entendez ça jeudi, ben jeudi le 19, je suis à Comédia avec Trois Bières. On va être là avec Alexandre Forêt. La famille Belzil entière va être en assistance. Rémi, Marlène, ma soeur Guylaine, tout le monde va être là. Ça va être vraiment le fun. Ben, eux autres vont pas être sur le stage, ils vont être justement dans la foule, mais ils sont très gentils pour pouvoir leur parler. Mais là-dessus, on vous remercie de nous écouter, mais absolument, de façon plus importante, on vous invite à aller voir une vue.
Yeah!
Les voyeurs.